Bienvenue sur le podcast Stronger Things. Chaque mois, avec Myriam, Thibaut et Willy, nous allons aborder des sujets sur le thème du sport, de la santé, de la performance et du business en général, avec nos quatre points de vue différents. Bienvenue sur l'épisode 4 du podcast de Stronger Things. Aujourd'hui, avec Mims, Willy et Thibaut, on va parler de l'Open et plus spécifiquement comment préparer l'Open. On parlera de stratégie d'entraînement, de philosophie, de nutrition, de sommeil et aussi de mobilité. Profitez bien de cet épisode. Bienvenue pour ce nouvel épisode en streaming cette fois, malheureusement. On est plus en live. Vous verrez plus le fameux street runner passé sans vêtements en train de chercher un coupe-cigare. Mais aujourd'hui, on a un sujet un peu plus sérieux qui va peut-être vous intéresser. Si vous êtes dans le CrossFit, si vous entraînez dans une affiliée, vous avez sûrement entendu parler de l'Open. Et l'Open, ça tombe bien. Aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu, on va vous donner des conseils sur comment vous préparer, en tout cas comment essayer d'optimiser cette saison 2023 qui est dans vraiment pas longtemps. Peut-être que ça vous servira plus pour 2024. Et je suis accompagné à nouveau de tous mes co-hôtes, on va dire. J'ai Willy. Salut Willy.
Salut avec tout le monde.
Sapin sur la casquette. Tib, salut.
Salut.
Et Mims qui est de retour.
Moi je décide de faire pareil. Salut.
Sans casquette. Allez, sans casquette.
Sans casquette. Mais bientôt, maintenant, il y a le casque. Mais bon, dans ce podcast, on va aborder plusieurs thèmes. On va aborder n'importe quoi. On va aborder tout ce qui est entraînement, on va aborder nutrition, sommeil, un peu de supplémentation. On va aborder la mobilité et on va aborder aussi des conseils et peut-être un petit peu de pronostic si le cœur nous en dit. Mais n'écoutez surtout pas ça parce qu'on aura sûrement tort. L'Open, si vous ne connaissez pas, c'est un peu l'épicentre de la saison CrossFit. Ça commence par là, les CrossFit Games. Willy, pour se qualifier aux Games, il commence avec l'Open. Mais en réalité, c'est surtout l'épicentre de la communauté CrossFit au sein des box. Parce que c'est une excuse parfaite pour créer un moment où la communauté de votre box peut se tester, où vous pouvez vous tester, vous challenger. Et aussi, surtout, savoir qu'est-ce que vous valez à un moment T, et ça chaque année. Ce qui est cool, c'est de pouvoir le faire chaque année et de voir si vous progressez, si ce qu'on fait, ça marche. Parce qu'en vérité, on fait du CrossFit pour essayer de progresser et améliorer sa condition physique. L'Open, ça a été créé en 2000, que je dise pas de conneries, en 2011. En 2011, les Games en 2007, on a eu les Sectionals en 2010, les Open à partir de 2011 jusqu'à aujourd'hui en 2023. Et en 2011, l'Open avait 26 000 athlètes pour sa première édition. En 2012, 69 000. En 2013, 138 000. 2014, 209 000. 2016, 324 000. Jusqu'à monter en 2018 à 416 000. En 2022, on est redescendu avec le Covid, on est redescendu à 300 000. Et actuellement, on vient de passer les 110 ou 120 000 dans le monde. Et on est sur une courbe pour retrouver un niveau pré-Covid et pour repartir vers les 400 000. En France, on a eu au pic 18 000 inscrits. Et cette année, je pense qu'on aura entre 20 et 25, voire peut-être 30 000 inscrits à l'Open. On espère. Ce qui rend les Open uniques, et on va en parler, c'est le fait que ça soit la seule compétition où on peut se mesurer au meilleur du monde dans une discipline. C'est-à-dire que c'est la seule opportunité où une communauté entière, quel que soit votre niveau, peut être sur le même classement que Willy, que Matt Fraser, qui malheureusement ne les fera plus cette année, que Rich Froning, que les meilleurs de notre discipline. Et on peut réellement se comparer. Et on peut même éventuellement remporter une épreuve devant ces gens-là, même si on ne gagne pas l'Open. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aborder vraiment nos conseils, que ce soit votre première fois à l'Open ou que ce soit votre X fois que vous ayez comme objectif de vous qualifier au quart ou au demi. On va essayer de partager un peu tous nos tips là-dessus. Mais avant toute chose, pour laisser un peu la parole à mes co-hôtes et ne pas faire un monologue, j'aimerais que vous partagiez la première fois que vous avez fait l'Open et votre meilleur classement et pourquoi vous faites l'Open. Bon, Willy, on sait que c'est pour te qualifier aux Games. Will, dis-nous ça en premier.
Moi, les Open, j'ai commencé en 2016, il me semble. Je venais de m'inscrire dans une affiliée à l'époque et j'étais coaché par mon ami de l'époque, Michael Anquet, qui est un très bon coach également dans l'organisation des Marseille Throwdown et qui était un coach à CrossFit Massila et qui est vraiment un excellent coach. Il m'avait convaincu de me dire « bon, bah vas-y, il faut tester ». Et pour être honnête, à chaque fois que je fais un sport, je suis un compétiteur, j'adore la compétition. Et donc, je m'étais dit « bah vas-y, c'est l'occasion de te challenger ». Donc, 2016 et mon meilleur classement, c'est 3e mondial sur l'ancienne formule avec… il y avait 5 codes à l'époque et c'était en 2018, ouais. Et voilà, moi, les Open, c'est comme tu l'as dit, c'est quelque chose d'assez magnifique parce que ça, c'est, on est le seul sport au monde où un athlète amateur lambda de n'importe quel âge peut se comparer sur exactement la même épreuve, le même test, le même challenge qu'un athlète professionnel comme par exemple Justin Medeiros qui va probablement regagner une fois les Games. On est le seul sport à proposer ça et je trouve ça beau dans un sens où c'est le début de la saison et tu as cette opportunité. Donc c'est pas mal, c'est quelque chose qu'on doit garder à tout prix. Ça fait partie de l'identité des CrossFit Games, du CrossFit à mes yeux et ça regroupe là une belle fête de la communauté dans laquelle on n'exclut pas les compétiteurs. Parce que voilà, une époque, on a cherché un peu à dire, OK, les compétiteurs, c'est pas le CrossFit santé qu'on fait. Après, on s'est dit, bah, c'est quand même une belle vitrine, ça permet quand même de développer CrossFit. On les a ramenés et il y a eu trop ce jeu de balles de ping-pong à s'éloigner, se rapprocher à mes yeux. Et je trouve que c'est important de comprendre, bah, on va tous dans la même direction et on peut tous se porter vers le haut.
Moi, je dis souvent, en fait, c'est un truc qu'on. En ce moment, vous pouvez voir une campagne qui s'appelle La magie du CrossFit, où on parle beaucoup de l'éthos, la philosophie CrossFit. Et on parle de ça comme étant le kernel. Donc, le kernel en informatique, c'est un peu le système central de l'ordinateur sur lequel on peut installer des logiciels. Et en fait, on voit, en tout cas maintenant dans le monde du CrossFit, on voit les games comme un logiciel que vous pouvez installer de temps en temps dans la saison, hop, pour pouvoir essayer de performer, de vous inspirer et d'avoir un objectif. Et en fait, la plupart du temps, on a ce logiciel de préparation physique pour la santé, etc. Et de temps en temps, bah voilà, on démarre ce logiciel de compète pour chercher le challenge, pour chercher un mouvement où on performe, pour chercher vraiment une opportunité de se créer cet objectif et de s'entraîner pour une raison et de voir aussi où on en est. Mais ouais, pour un peu flatter ton ego, Will, ouais, tu as fait 5 fois premier en France, plutôt cool, à l'Open, 3e en 2018, et tu n'es jamais sorti du top 40 depuis. Tu as fait 33e, 30e et 36e, ce qui est quand même une perf solide. Surtout que bon, il y a une grosse corrélation entre la performance à l'Open, souvent, et les gars qui performent aux Games.
Après, ça, c'est. Je ne rejoins pas vraiment ton avis là-dessus parce que je trouve qu'aux Open, bien souvent, par exemple, pour l'exemple des Fikowski et compagnie, ils ne performent pas vraiment à l'Open et ensuite ils vont performer très fort aux Games. Plus la saison avance, plus on se rend compte que eh ben, ces mecs-là sont au rendez-vous. Les Open, c'est l'occasion, on va dire, pour les personnes qui ont moins de qualité physique ou qui s'entraînent moins, de pouvoir performer. Parce que performer dans un WOD, dans ta box, que tu peux faire 2, 3, 4 fois avec de la récupération, préparer ta stratégie, c'est une chose. Performer sur un floor après 2 jours de compétition en ayant le corps fatigué, en n'ayant peut-être pas la même stratégie que si tu étais en pleine forme, et ben c'est une autre chose. Et également, on s'entraîne pour tolérer ce volume, encaisser ce volume et surtout performer avec ce volume tout en évitant la blessure. Donc, les Open, c'est vrai que c'est faux. J'aime bien prendre avec des pincettes tous ces WODs d'Open. En 2018, j'ai fait 3e mondial parce que les WODs, ils m'allaient bien. Voilà, c'est, je ne vais pas dire parce que j'étais plus en forme cette année-là. 2018, j'étais moins en forme que l'an dernier. Je suis moins en forme que cette année. Et ben, j'ai fait 3e. Et cette année, je ne vais sûrement pas faire 3e. Voilà, après, voilà, c'est toujours un concours de circonstances. Et comme tout, ça fait partie du CrossFit. Et je trouve ça aussi beau parce que ça permet des fois des gens peut-être qui s'entraînent moins que nous, les athlètes professionnels, et ben, de faire des top scores mondiaux. Et ça, je trouve ça cool aussi. Ça permet aussi de nous remettre un peu l'ego, une petite claque à la tête, un petit coup à ton ego. Et ça permet des fois de remettre en place des gens. Et ça permet également aussi à certaines personnes de s'enflammer très fort et de faire le pétard mouillé par la suite.
C'est moi, ça, le pétard mouillé. Mais mouillé même avant d'être allumé, je crois. Et je passe la parole à Mims. Dis-nous, du coup, première fois que tu as participé, ton meilleur classement et pourquoi est-ce que tu le fais ?
Alors, la première fois que j'ai participé, c'était en 2017. Moi, le souvenir que j'ai de ça, c'est que je ne comprenais même pas ce que j'allais faire réellement. Et on m'a dit, tu peux faire le WOD en RX. Et j'ai dit, c'était la première apparition des dumbbells et j'y croyais pas. Et en fait, j'avais fait tous les WOD en RX. Et du coup, j'étais contente, voilà. Mais je comprenais toujours pas ce qui m'arrivait. Et ce que j'ai fait comme ma meilleure perf, hein, de 2017 à 2020, j'étais encore en catégorie jeune élite. Du coup, j'avais fait 106e française en RX. Et puis là, je suis passée depuis 2 ans dans la catégorie master. Et je suis 322e française l'année dernière et 1104e mondiale. En vrai, j'ai pas trop aimé mes 2 dernières années de pratique parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de m'entraîner. Les Open, c'était quelque chose que j'avais pas fait entre guillemets avec plaisir, contrairement aux autres années où je m'entraînais régulièrement et puis je pouvais vraiment entre guillemets me préparer à ce moment pour performer. Là, je les ai fait parce que c'est les Open et que ça tombe et que ben, quoi qu'il arrive, je les ferai. Et les 2 dernières années, je me souviens que je les ai faites, c'était mon seul entraînement de la semaine, c'était l'entraînement de l'Open. Du coup, je souffrais à chaque fois que je m'entraînais sur la semaine. Je prenais ma cartouche de la semaine et je faisais plus rien jusqu'à la semaine d'après. Et voilà, donc je trouve que c'est un bon moment. Je pense que en tant qu'athlète de CrossFit ou une personne qui s'entraîne dans une boxe, c'est un moment, même si on fait d'autres compétitions dans l'année, c'est le moment qui tombe à chaque fois, là, en février, mars. C'est le rendez-vous qu'on doit prendre avec soi-même, qu'on soit confortable ou non, qu'on soit entraîné ou pas. Et il faut juste se donner après une rigueur et se dire, bon, bah, quand je termine cet Open, ma rigueur, elle est pour l'année prochaine et je planifie ça sur un an. C'est pas, voilà, je tire du chapeau une compétition en juin, je tire du chapeau une compétition en août et je me prépare un max pour ça. C'est de se dire, c'est que là, c'est, tu te donnes une régularité d'entraînement et un objectif annuel. Et il faut être, faut le garder, je pense. C'est un truc intéressant pour moi, pour l'Open.
Je pense que l'Open, il faut le voir aussi comme pour la plupart des athlètes, hein, pas pour Will, par exemple, qui, lui, il voit ça comme une porte d'entrée vers l'écart. Mais pour nous tous, c'est plus un thermomètre de ta condition physique actuelle. En gros, c'est pour voir, OK, est-ce qu'en ce moment, ce que tu fais, est-ce que tu as fait les 6 mois, 6 derniers mois, 8 derniers mois, etc., fonctionne, et est-ce que tu prends soin de toi ? Et donc, si ça ne va pas et tu te dégrades et tu penses avoir fait tout ce que tu pouvais derrière, c'est qu'il y a un souci. Si tu sais que tu as un style de vie qui n'est pas correct en ce moment, eh ben, voilà, ben, l'Open te montre que c'est la réalité. Ou au contraire, si tu as fait des efforts et tu as travaillé dur, eh ben, le classement de l'Open te récompensera. Et c'est ce que j'aime. Je pense que c'est comme ça que les gens normaux, en tout cas, doivent le voir.
Ouais. Jules, je te coupe 2 secondes, mais pour rebondir sur ce que tu dis, c'est le premier rebondir de ce podcast. Ben simplement, je pense que 90% des athlètes des Games n'aiment pas les Open. J'apprendrai à aimer les Open une fois que je ferai les Open, une fois que ma carrière elle sera finie, quoi, où je serai à la cool et j'aurai plus de prétention, on va dire, de performer au plus haut niveau. Et simplement, les Open, c'est un moment très stressant pour les athlètes des Games et également challengeant parce que tu dois mettre de côté ton ego dans le sens où tu dois pas te focaliser sur ce que font les autres et refaire qu'une seule fois le workout et inclure, faut qu'il soit incorporé dans ton entraînement. C'est-à-dire que tu ne vas pas planifier ta journée pour faire une énorme perf ou pour planifier avec 1 ou 2 jours, 3 jours de récupération, un pic de forme. Tu vas faire l'open workout simplement comme ton workout du jour, incorporé dans ton entraînement parce que tu sais que l'objectif, c'est les quarts de finale et parce que tu sais qu'ensuite, c'est les demi-finales. Donc, tu dois mettre ton ego de côté et accepter de faire un moins bon score que ce que tu pourrais faire. Et ça, c'est le gros challenge pour chaque athlète des Games ou chaque athlète qui souhaite performer en quart et en demi. Et malheureusement, bien souvent, c'est un petit concours d'ego, un petit concours de zizi, comme on dit. Et il y en a beaucoup qui se font mousser. Il ne faut pas regarder les réseaux. Je conseille à tous les jeunes athlètes qui veulent performer au quart ou au demi ou moins jeunes de faire abstraction complète des réseaux sociaux pendant cette période des Open parce que voilà, ça peut nuire à vos performances et également à votre plan. Voilà, je tenais simplement à préciser ça.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu disais, Will, c'est-à-dire que c'est une période qui est vraiment pas aimée des pros. Pardon. Ouais, on le voit parce qu'en fait, c'est juste une porte d'entrée pour aller au quart et pour aller au demi. Donc, des mecs de ton niveau, même l'écart, ça devient une épreuve sérieuse. Mais en gros, votre pic de forme, il est beaucoup, beaucoup plus tard dans la saison. Le seul truc, c'est que là, du coup, vous sortez à peine de votre off-season, vous n'êtes pas du tout encore en forme optimale comme vous allez l'être aux demi-finales et aux Games, mais par contre tous les regards sont sur vous, c'est-à-dire que les regards ne sont pas sur Mims, Julian ou moi, tout le monde s'en fout, mais par contre tout le monde regarde ce que vous faites et tout le monde va juger ce que vous faites en plus. Donc c'est-à-dire que si jamais tu fais une perf ou tu fais 70e mondial, ce qui est en soi incroyable, tout le monde va dire ah, il est moins en forme que l'année dernière. L'année dernière, il avait fait 30e. Et donc, c'est ça qui est hyper dur.
Et souvent, tu fais un WOD, on dit oh, regarde, il a fait tel score ou quoi, ou un tel où j'ai battu Patrick Vellner. Ouais, mais ce que tu sais pas, c'est que Patrick Vellner, le workout, il l'a fait après 3 blocs d'entraînement à la fin de sa journée, juste parce qu'il l'a placé comme ça. Et c'est le cas de plein d'athlètes. Mais ce que je dis, voilà, les Open, ça permet de gonfler les égos de pas mal de monde, mais ça peut également les remettre en. Parce qu'ils arrivent plein de confiance pour l'écart, malheureusement, grâce à ce fait, ils se disent oh, je suis au même niveau qu'un tel, un tel, un tel. Mais ensuite, en fait, ils se rendent compte que les mecs des Games, moi y compris, les Open l'an dernier, tu sais très bien, les WOD, je les faisais incorporer dans mon entraînement et j'étais pas le seul. Hein, quand je battais un autre athlète des Games qui je considère meilleur que moi, je me doutais que cette personne avait encore plus pris. Pas la légère, mais il avait mis son ego de côté en se disant « Ok, moi, je suis dans une période de travail, d'une période où je dois travailler, où je ne dois pas performer. Une période de travail n'est pas une période dans laquelle tu performes. » Donc, le but du jeu, c'est arriver simplement faire un WOD, faire un bon WOD parce que voilà, oui, on va passer en quart, mais passer à l'étape suivante. sans briller, forcément.
Tout à fait d'accord avec ce que tu dis. J'ai une petite anecdote là-dessus. Là. À Miami, là, on a pu discuter un peu avec, avec Matt Fraser. Et en fait, il veut la même chose pour ses athlètes, et, y compris pour Mallory O'Brien, qui depuis qu'elle est toute jeune, elle veut absolument être la meilleure à l'Open et gagner l'Open. Et donc, du coup, le seul moyen en fait, qu'il a trouvé pour éviter qu'elle se mette minable les trois semaines avant l'Open, plus pendant l'Open, et que, sous-entendu, ce que tu disais, Will, elle ne s'entraîne pas correctement juste pour performer à l'Open. En fait, il est parti à Hawaï. Il avait peur qu'elle s'entraîne trop pendant qu'il n'était pas là. Donc, il lui a dit, bah, tu sais quoi, tu viens avec moi. Comme ça, j'ai un œil sur toi pendant 10 jours. Je suis sûr que tu ne t'entraînes pas ou que tu t'entraînes normalement. Et donc du coup c'est ce qu'ils ont fait, ils sont partis à Hawaï, comme ça il est sûr qu'elle fera l'Open tranquille et qu'elle voit ça que comme une porte d'entrée pour sa saison, parce que son objectif final c'est de gagner les Games cette année.
Moi je veux bien qu'ils me prennent en vacances aussi à Hawaï, hein, parce que j'ai peur de m'entraîner
sinon tu t'entraînes trop. Ouais, pareil. Mm-hmm. Un grand problème.
Moi je reviens là, c'est pour ça que je suis un peu bronzé, tu vois. Non je déconne, mais pour revenir sur le sujet, oui c'est ce que tu disais, c'est intéressant parce que en vrai, on distingue là plusieurs profils de gens qui font l'Open. Donc, tu as le mec de tous les jours ou la personne de tous les jours qui est dans une box, qui s'entraîne pour sa condition physique, qui doit prendre ça comme le thermomètre de sa condition physique à l'heure actuelle. Ouais, c'est un challenge, mais c'est surtout genre comment tu te sens aujourd'hui et on va voir si tu arrives à te sentir mieux dans un an avec l'entraînement que tu vas faire dans la box au jour le jour. Après, tu as le gars qui est un peu compétitif, qui a envie de progresser, etc. Ouais, ça a des intérêts de faire l'Open sérieusement et de t'y mettre sérieusement comme un vrai objectif de compétition à un moment T. Après, tu as le gars qui a envie de se qualifier au quart ou au demi. Lui, par contre, je pense que contrairement au gars qui veut se qualifier aux Games, ben ouais, ça peut être intéressant d'essayer de performer à l'Open pour essayer de te qualifier au quart. Donc ouais, si tu as fait une contre-performance, ben, retenter le WOD de l'Open, ben, si réellement l'écart c'est important pour toi, ben ouais, tu vas le refaire. Et à l'athlète des Games comme Will ou l'athlète des demi, réellement qui sait qu'il va se qualifier au quart ou au demi, qui veut performer au demi et faire un top 10 ou je ne sais quoi ou aller aux Games, bah lui, comme tu dis, Will, à mon avis, il veut mettre ça dans son bloc d'entraînement pour performer au quart et au demi. Je dis pas de conneries.
Tu dis pas de conneries et c'est simplement une question d'ego. C'est vraiment s'arriver à avoir ce recul vis-à-vis de ton entraînement, ta planification et ce que tu veux faire pour te dire ok. Je suis dans une période de travail, mon pic de forme, mon moment de performance, il n'est pas maintenant. Je dois accepter de faire une moins bonne performance que ce que je pourrais faire, de ce que mon potentiel peut offrir. Je dois accepter ça, je dois mettre de côté tout ça et me dire « je travaille ». C'est ce que je dis toujours, il faut comprendre que quand tu as des périodes de cycle, eh ben, tu as une période de travail dans laquelle tu n'es pas au top de ta forme tous les jours. Il faut l'accepter, tu ne vas pas faire les performances que tu veux. Et après, avec des périodes de récup, l'effet de surcompensation, etc., bah, tu vas arriver à un pic de forme à un moment voulu. Et même des fois, tu n'y arrives pas parce que tu ne sais pas pourquoi. Pas forcément au niveau de ta planification d'entraînement, ça n'a pas marché. Peut-être qu'au niveau, tu avais des facteurs extérieurs comme la nutrition, le sommeil, etc., qui n'étaient pas, on va dire, calqués là-dessus et qui ne t'ont pas permis d'avoir un pic de performance. Mais quand tu y arrives, bah, généralement, c'est le moment où tu es en train de tout exploser, où tu as tout qui vole. Et généralement, bah, tu as une période après où tu es capoute et que tu ne fais plus rien parce que voilà, tu es arrivé à ton pic de forme. Et ensuite, c'est repartir sur cette espèce de cycle pour retrouver un pic de forme. Mais encore une fois, voilà, il faut arriver à mettre ça de côté. Et pour une petite astuce pour le mettre de côté, c'est de couper les réseaux, parce que voilà, les marques, les sponsors, tout ça, ils vont tous essayer de pousser un athlète, créer un peu du gossip ou quoi que ce soit. Mettez ça de côté. Moi voilà, je parle pas avec pas mal d'autres athlètes français et c'est vrai qu'ils me disent en ce moment, ça m'énerve, il y a un tel qui se prend pour un autre, etc., etc. Mais je dis toujours, mais on s'en moque de ça. Tu t'en fous, ça ne va pas te faire t'améliorer, ça ne va pas te faire progresser et au contraire, ça va t'éloigner de ton objectif principal qui est de performer au demi. Tu dois te mettre de côté tout ça, te dire bon, bah, le juge de paix, ça sera les demi-finales ou les quarts. Le reste, on s'en moque. Et je voulais simplement préciser un certain point vis-à-vis de ce que tu disais, Julian. Moi, ce qui m'a permis de vivre les Open différemment et ce qui me permet toujours de changer ça, c'est le fait d'avoir une affiliée et maintenant de vivre les Open au travers de mon affiliée, Wiz CrossFit. Eh ben, je me rends compte, voilà, je m'en rends pas compte parce que j'en avais déjà conscience, mais de le vivre différemment et de voir qu'il y a des gens, comme tu disais, ils ont des objectifs différents, de se challenger et de voir à quel point ces gens, sans prétention d'aller aux Games ou de vivre de la performance de CrossFit, arrivent à se mettre dans le rouge ou une pression de dingue. C'est incroyable et je trouve que ça fait partie de la magie des Open parce qu'il y en a, ils vont se mettre des rhabdos monumentales. Le Jean-Patrick qui a 52 ans, qui découvre le CrossFit depuis 6 mois, il va se mettre dans des états incroyables et repousser ses limites et je trouve ça cool dans le sens où ça arrive une fois par an. C'est sûr que si ça arrivait chaque semaine, c'est pas dingue, mais je trouve que c'est aussi la beauté des Open et c'est quelque chose qui nous est propre au CrossFit et qui fait partie de notre identité, notre ADN.
Ouais, j'allais dire, tu as oublié une catégorie dans les gens. Tu as oublié aussi ceux qui en ont rien à faire de leurs résultats, qui veulent juste venir s'amuser avec des potes. C'est une catégorie qu'on voit beaucoup aussi dans les salles.
C'est le premier.
Ouais, mais pour moi, lui, il cherche même pas à savoir ce qu'il a fait de bien ou pas bien. Il cherche juste à s'amuser, tu vois. Et je trouve que la première fois que tu fais des open dans une salle et qu'il y a ce côté communautaire, si tu le connais pas, en fait, c'est comme une soirée en pleine journée où juste tu fais un workout au milieu et tu juges les autres. Et franchement, pour ceux qui ont jamais connu ça, allez-y, faites-le dans votre affilié parce que c'est vraiment super bonheur.
Ouais, et la plupart des box maintenant organisent des événements autour de ça. On était à CrossFit Annecy tout à l'heure et ils disaient maintenant, nous, l'open, c'est des soirées. Donc, ils font le WOD et après, c'est l'occasion de sortir la tireuse à bière et de mettre un DJ et des trucs comme ça.
Et on peut même motiver les gens avec ça. Pour savoir, à Wiz CrossFit, on leur a promis que s'ils étaient plus de 100, Wiz CrossFit offrait les pizzas et les bières. Parce que sinon, ils ne viendront pas.
Il y a des box aussi qui font un système de points parallèles. Donc, ils prennent leurs athlètes et ils prennent leur classement. Et après, en fait, ils désignent des teams dans leur box et avec des capitaines. Et là, en fait, ils ont à chaque fois, par exemple, par semaine, ils ont un challenge en plus qui rapporte des points. C'est par exemple une résolution d'une énigme ou un truc un peu qui n'a rien à voir avec le CrossFit. Donc là, ils ont des points par team. Et après, ils desservent des Spirit Awards et tout ça. Donc, ils vont donner le Spirit des Open dans leur box. Et à la fin des Open, des 3 semaines, ils viennent récompenser la personne qui a été la plus sympa. C'est à Saint-Maur. Ils ont créé un super CrossFit Saint-Maur. Ils ont mis un trophée trop cool qu'ils ont vraiment fait eux-mêmes. Et super qualitatif. Et ils le desservent à une personne une fois par an. Et donc, ça va au-delà en plus, la compétition sportive et du classement. C'est ça qui est cool.
Est-ce qu'ils font comme nous au rugby, tu as dû voir ça toi Will, où le gars qui jouait le plus mal dans l'équipe le jour-là avait droit à un gage, en général c'était un maillot que personne ne lavait, et il fallait que tu le gardes avec toi jusqu'au prochain match, mais que tu l'aies avec toi tout le temps.
Ou la mascotte.
C'était ça toi?
Ouais, où nous on avait même, il y avait la baguette magique, c'est une brosse à chiottes un peu modifiée, que tu devais garder avec toi toute la semaine, quand tu avais fait des gagates pendant le week-end, que tu avais les mains au carré ou des petits en avant qui passaient mal. Mais ouais, il y a pas mal de trucs. Franchement, les box, je trouve ça cool, elles se décarcassent pour trouver des idées. Même nous, à Wiz CrossFit, je vois Louis, le head coach, il essaye de trouver plein d'idées, se challenger, comme tu dis, avec les gens qui vont trouver un peu des challenges, là où on n'imagine pas qu'il y a des challenges. Des fois, il y en a, ils vont me dire, je m'inscris pas aux open. Après, ils vont voir que leurs collègues à qui ils s'entraînent tous les jours, ils s'inscrivent aux open, il a fait un WOD. Ils vont voir le premier WOD tomber avec un mouvement qui leur plaît, ils vont dire, je m'inscris. Je vais le démonter. Et il y a des espèces d'esprit de compétition qui naissent avec les open. Bon, des fois, ça peut être malsain. Des fois, ça reste bon enfant dans la majeure partie des cas. Et les open, c'est encore une fois une façon d'avoir son ego de côté parce qu'on est tous avancés d'un côté, reculés d'un autre. Donc, au premier workout, tu peux avoir quelque chose qui te convient très bien. Et au deuxième workout, tu peux être minable. Donc, je trouve ça sympa. Moi, j'aime bien. En tout cas, ça permet de remettre un peu les pieds sur terre et de voir des belles choses.
Et toi, Tib, on ne t'a pas entendu. C'était quand ton premier Open?
Mon premier Open, mon premier Open, c'était en 2017 à CrossFit Sifour avec Jérémy Lévo, qui est un ami. C'est lui qui m'a fait connaître le CrossFit. Et c'était le workout, je crois que c'était le 17.2 avec les walking lunges et les chest to bar qu'on a refait il n'y a pas longtemps. Et c'était celui-là, et je me rappelle avoir rien compris à ce qui se passait. Au bout de, je crois que c'est un AMRAP de 20 minutes, au bout de 10 minutes, j'étais au bout de ma vie, je voulais arrêter.
Il y avait des burpees aussi, non?
Il y avait des burpees, ouais. Ouais, c'était walking lunges.
2016, overhead. Du coup,
c'est 2016, ça.
Ou 2016.
Ouais. C'était mes premiers open aussi, le premier WOD.
Voilà, mais on a fait quasiment le même score. Je crois que j'ai fait genre 600 reps de moins que toi, un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, je crois que les 3 dernières minutes, tu m'es passé devant parce qu'au pace, t'as pas breaké alors que moi, je commençais à breaker.
Sachant que oui, il y a 601.
Exactement. Voilà. On est à peu près sur ce score-là de mon fitness de l'époque. Après, moi, je ne l'ai fait absolument pas pour mon score ou je ne sais pas quoi. Moi, je l'ai fait juste parce que c'est bonnard. Là, maintenant, on l'a fait avec le bureau.
Je
ne
crois pas une seule seconde. Je suis sûr que tu veux gagner devant tous les gens à côté de toi.
Non, je veux être le plus fit du bureau parce qu'il y a une règle.
Pour toutes les personnes qui entendent ce moment de Thibaut, sachez que c'est complètement faux. Pour l'avoir vu jouer au golf ou dans d'autres sports, il déteste perdre.
Il veut tout gagner.
Même le karting, on l'a vu.
Je déteste perdre. Je suis un compétiteur, je veux être le meilleur partout. Par contre, je connais mes limites aussi. Et je m'entraîne régulièrement avec des mecs comme Will. Donc, si je comptais gagner, c'était fini. J'aurais changé de sport direct. Je sais pas, j'ai levé du fil. Franchement, mon dernier
dis
score,
la même chose
genre
à John Singleton quand tu joues au golf avec lui. Dis la même chose
non,
à
j'ai John gagné Singleton. Au golf contre John Singleton. J'ai gagné contre lui en crossfit aussi. Non. Donc
tu
là,
veux,
maintenant,
tu
voilà,
veux
je
pas
me, ga- je me fais
tu
mes
veux pas gagner
défis.
Au golf contre lui. Tu veux l'anéantir.
Est-ce que c'était un WOD de l'Open que tu as gagné contre lui? Parce
c'était
sinon,
un
WOD
type. Non, mais c'est un WOD type Open, pur crossfit. C'est-à-dire, ouais, c'était un 21-15-9, Incline and Jerk Burpees. Et voilà, donc du coup, voilà, on s'est
ouais,
mis
moi,
le,
je tiens à dire
quand même feu là-dessus.
Thibaut, il a quand même remporté son premier tournoi de golf. Et il va bientôt gagner une BMW. Et si vous ne savez pas, sur sa casquette, il y a le nom de l'application qu'ils ont développée pour le golf. Donc ceux qui regardent YouTube, bah, je vais quand même le dire pour ceux qui écoutent sur Spotify, Mobility Pro. Voilà, si vous êtes des golfeurs, parlez-en aux gens avec qui vous faites du golf et essayez, vous allez voir, c'est plutôt cool. Voilà, la parenthèse pub est finie.
Ouais. Ça va améliorer moi, votre swing.
J'aimerais juste dire un truc sur les personnes qui disent que les Open, c'est de la merde. Parce qu'il y en a quand même tous les ans où tu leur dis « Ah, tu fais les Open ?»« Ah non, c'est pas pour moi. Moi, je vais faire cette compétition. » C'est un truc, ça m'énerve.
Non, Mims, ils disent pas ça. Ils disent « Ah non, mais moi, je fais pas du crossfit pour la compétition. C'est pas mon truc.
» Ouais, et après, en fait, on les voit participer souvent dans les compètes. Et ils font des compètes. Mais l'Open, non. Et c'est pour ça que enfin, je trouve que c'est quand même assez hypocrite. Et où je trouve que l'Open, c'est quelque chose de challengeant au-delà de physiquement, c'est quelque chose qui va challenger le mindset des personnes. Et Julianne, toi, tu m'en parlais, tu sais, des mindsets fixes et des autres mindsets où le mindset fixe, c'est une fois qu'on est face à quelque chose, à une difficulté, bah, on s'arrête, on dit « ouais, je suis qu'une merde, de toute façon, ça, c'est de la merde », et on arrête tout. Et il y a celui qui se remet en cause et qui dit « ok, donc qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie? Qu'est-ce qu'il faut que j'adapte pour pouvoir être meilleur, être en meilleure condition physique ?» Et par exemple, nous, ça a été un peu notre cas, et moi, c'était mon cas, c'est que l'année dernière, et enfin ces deux dernières années, franchement, les Open, j'ai jamais pris de plaisir à les faire, alors que les autres années, oui. Et c'est quelque chose qui a remis en cause totalement mon style de vie ces deux dernières années. Pour les quarts de finale, j'avais eu le Covid et tout ça, en gros c'était un peu voilà quoi, c'était un trop plein, et c'est ce qui nous a fait prendre aussi des décisions dans notre vie quoi. C'est qu'on aime s'entraîner, moi j'aime m'entraîner, j'aime coacher, j'aime aussi m'entraîner, je prends du plaisir à ça, et c'était plus tout ça, donc on a pris des décisions de vie qui ont drastiquement changé ça aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut pas faire partie de ces mindsets là.
Je voulais juste dire ce que Mims, c'est super intéressant. Parce que c'est exactement ce qui se passe dans les affiliés. Bah, vous en parlerez bien mieux que moi, mais moi, en tout cas, je le vois à mon échelle à Wiz CrossFit. C'est qu'il y a des gens à qui le coach va dire toute l'année, ce serait bien que tu bosses un peu tes muscle-up ou que tu sois un peu plus investi dans ton skills muscle-up ou d'autres mouvements. Hein. Et ils ne le font pas par un peu, on va dire, je ne sais pas si c'est de la fainéantise, mais des fois en se disant, bon, ça tombe qu'une fois toutes les deux semaines, mm-hmm. quand je viens, ce n'est pas grave. Et en fait, le jour où ça tombe aux Open, eh ben, souvent, il y a des prises de conscience après les Open et les gens reviennent en disant, ok, coach, bah là, je vais bien bosser mes muscle-up, ou tu les vois bosser un peu plus après les WOD sur un skills muscle-up ou sur un skills double under. Et je trouve ça super cool parce qu'on voit que ça met en exergue des faiblesses. C'est un peu comme nous, les compétiteurs. C'est exactement la même chose pour les gens de tous les jours. Et on voit qu'ensuite, ils trouvent ce test, il a permis de mettre en exergue et de trouver un point faible et ils vont bosser dessus ensuite. Et je trouve ça vraiment cool parce que on se rend compte que quel que soit ton niveau, eh ben, c'est le même mode de fonctionnement. À des intensités, à des volumes différents, bien sûr, mais c'est exactement pareil. Et je trouve ça cool. C'est quelque chose qui me plaît.
Ouais, c'est cool que ce soit un inconfort de pas choisir ta date. C'est la date qui va choisir le moment de test. Et c'est pas toi qui va dire non, mais moi en juillet, je vais le faire. Et en off, et après tu changes. Oh ben en août, c'est comme ça. C'est à cette date-là. Tu t'es prêt, t'es pas prêt. C'est le moment de faire un bilan. Si t'es pas bon, remets-toi en question. Si t'es bon, ben tant mieux. Ça veut dire que t'as fait les bonnes choses.
Après, il y a ceux qui acceptent pas du tout le fait d'être pas bon, et c'est les Jean-Michel Ridoux, là. Ceux qui, au bout d'un moment, ils acceptent pas qu'un WOD ne va pas, et tu les vois faire 150 fois le WOD. Alors, moi, je les appelle, c'est simple, j'ai un peu une expression, c'est que ceux-là, on les appelle leur programmation, c'est la programmation open. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, avant c'était 5 semaines, leur programmation, c'est les open. Donc, le vendredi, samedi, dimanche, lundi, les mecs, ils te refont s'il y a des lunges et des chest to bar et des snatch, je peux te garantir que tu les vois faire que ça. Ensuite, le mardi, mercredi, ils sont défractés ou ils ont des douleurs qu'ils ne comprennent pas dans leur corps. Et ils remettent ça ensuite. Et ceux-là, franchement, je pense pas que c'est le but des Open. En tout cas, mon avis personnel profond,
franchement, c'est pas le but. Franchement, j'allais dire, si ton but ultime, c'est d'arriver au quart de finale, si c'est ton but final et que ça se joue à pas grand-chose, que tu es vraiment à la bordure de ces 10%, alors j'arrive à concevoir que tu le refasses. Potentiellement, mais pour tous les autres, c'est-à-dire 90% des gens, du coup, pour 90% des gens, je ne comprends pas le redo. Et j'en ai encore discuté au bureau avec une des employées en lui disant, si tu fais un redo, tu ne mets pas ton score au tableau. Je m'en fiche, il ne compte pas ton score. C'est complètement fou. On ne voit pas les pilotes de Formule 1 faire une journée de test et le dire, ah, j'ai raté un virage, on peut le refaire, s'il vous plaît. Tu vois,
Mazépine l'a fait.
Mazépine le fait, mais lui, il ne demande pas, il crache en une fois et puis c'est fini. Mais c'est comme ça, je veux dire, tu as un test et bien évidemment que si jamais je te demande de refaire la même tâche 37 fois d'affilée, la 37e fois, elle risque d'être meilleure que la première. Mais du coup, ça ne met pas en exergue quand tu disais tes faiblesses, tes points faibles, etc. Et ce n'est pas ton vrai score. Mais aussi, tu ne joues pas à tableau égal. Tu ne joues pas à tableau égal par rapport à tous tes copains qui, eux, ont joué le jeu. Donc, du coup, moi, je trouve que ce n'est pas juste. Et honnêtement, si c'est pour gagner, parce qu'en général, ils vont gagner 3 reps sur un workout. Par contre, ils se sont détruits. Et en général, ils finissent la semaine où ils ne peuvent pas s'entraîner jusqu'au prochain World de l'Open. Donc je ne comprends vraiment pas cette mentalité là honnêtement, faites-le une fois, amusez-vous et puis voilà.
Moi je me rappelle des WOD là où des fois il y a 150 double snatch. Déjà le double snatch, soyons clairs, c'est pas un mouvement qui est bon pour le corps. On n'est pas dans le crossfit santé, même à 22,5. Moi je fais un WOD avec 100 ou 200 double snatch, t'as le bas du dos, il est fracturé en deux et j'ai beau avoir un gros deadlift ou être bien préparé à ça. Et les mecs, il y a 150 double snatch dans le WOD, il y en a, tu les voyais matin WOD, le soir, repeat, parce que du coup, ils ont analysé la stratégie. Le lendemain, test, ils arrêtent au bout de la moitié. Ils se disent, c'est pas grave, c'est parce que je dois le faire dimanche. Ils le refont le dimanche et ils re-essayent le lundi. Je me dis, mais c'est des malades. Déjà, c'est pas intelligent. De deux, c'est pas bon pour ton fitness. Et de trois, c'est simplement au bout d'un moment pas accepter que t'as ton fitness, il est pas au niveau cette année, mais c'est pas grave, ça t'empêche pas de pouvoir l'améliorer pour la suite.
Le dumbbell snatch, pour ne pas avoir mal au dos, il faut baisser les fesses un petit peu, c'est tout. C'est parce que tu fais en mode carapuce.
Ouais, non, mais là, c'est ce que tu apprends aux gens. Là, tu es dans l'open, dans le test. Au bout d'un moment, tu es dur avec tes fesses. Au bout de la centième rep, elles ne baissent plus. Au bout d'un moment, c'est comme le GHD.
Mode canapèche.
Voilà, c'est ça. Et là, après, on est sur de l'efficience. L'efficience, c'est ajuster la technique à tes capacités physiques pour avoir, une dépense énergétique moindre et avec une vitesse optimisée pour te permettre de bouger vite. Et bien, et surtout en économisant du temps et de l'énergie, et ben au bout d'un moment, tes fesses, elles sont plus basses. Et ça, n'importe quelle athlète te le dira. Mais bon, c'est vrai que c'est pas comme ça que tu l'enseignes à quelqu'un qui commence le crossfit. Mais voilà, les open, on est dans le test et c'est pas un mouvement qui est sain pour le corps.
Moi, en tout cas, je me suis donné comme règle de jamais refaire un WOD de l'open deux fois. Et depuis que j'ai commencé les open, j'ai jamais fait un redo. Jamais.
Ah ouais,
bravo, je dis bravo.
J'en ai fait
plein. Je dis pas bravo, Julien.
J'en ai fait plein, mais ce que ça t'apprend sur toi de l'envie de faire ça, c'est juste que en fait, la première fois, tu n'as pas donné tout ce que tu avais. Et c'est juste qu'il faut réussir à se mettre dans ce mode où voilà, tu donnes tout ce que tu as si vraiment c'est ton objectif. Quoi.
Après,
c'est
je suis... Ouais, c'est... Après, je ne dis pas. Alors, il y a des redous intelligents. C'est-à-dire qu'une personne, comme je dis des fois aux gens de la prog, si vous faites une première fois, et comme Julien il le dit, tu n'es pas parti... peut-être parti trop vite ou peut-être parti trop doucement ou peut-être parti avec une stratégie qui n'était pas la bonne en fonction de tes capacités. Et ben dans ce cas-là, il peut s'avérer intelligent de le refaire le lundi à tête reposée et surtout en apprenant de tes erreurs, en disant « Ok, là, j'ai fait une performance qui n'était pas du tout représentative de mon niveau de fitness et je peux faire bien mieux avec une meilleure stratégie et peut-être une plus grosse intelligence physique au moment du workout. » Et ben là, dans ce cas-là, c'est intéressant de le refaire. Et comme tu l'as dit, Thibaut, si ton objectif, c'est aller au quart, eh ben oui, eh ben refais-le le lundi, mais refais-le pour que ça compte. Le refaire pour gagner 2-3 reps juste sur ton mental, je trouve pas ça très intelligent. Et comme il dit Julian, bah des fois, il faut savoir ce que tu veux. Comme je dis toujours, si c'est un WOD sprint où il n'y a pas trop de stratégie, eh ben dans ce cas-là, la vraie question que tu dois te poser avant de faire ton WOD open, c'est est-ce que tu veux souffrir qu'une fois ou souffrir deux fois ? Souffrir deux fois dans le sens où tu vas le faire une première fois, ça va te faire mal, tu ne vas pas être bien, et tu vas faire un score de merde et tu vas vouloir le refaire. Autant souffrir une bonne fois pour toutes et te poser le cerveau, savoir vraiment ce que tu veux et que ça fasse mal et te dire « Ok, je passe à la suite. »
D'ailleurs, si on revient à l'agenda du podcast, parce que là, on a dévié un petit peu, mais il faudrait… Le sujet du podcast, c'est comment vous préparer à l'open. Donc là, déjà, on a parlé de stratégie sur les redos. On a parlé de définir son objectif en tant qu'athlète. Est-ce que vous visez les quarts, les demi, les games ? En fait, tout ça va déterminer comment vous abordez l'open. Mais déjà, si on parle d'entraînement, là, on est quoi ? On est le combien, là ? On est le 28 janvier. Donc, les games, 27. Les open, c'est quoi ? C'est dans 20 jours, un truc comme ça, 19 jours ?
Ouais.
Oh, ça me stresse.
C'est dans 20 jours.
Là, c'est le début de ta carrière 2023. Moi, je peux comprendre que ça te stresserait. Moi aussi, ça me stresserait. Mais justement, est-ce que en termes d'entraînement, là, pour parler 2023, est-ce que on peut encore se préparer physiquement à performer en 2023 à l'Open, concrètement?
Oui. Tu me poses la question. Moi, premier, je dirais oui et non. Alors, si t'es un compétiteur et que là, à 20 jours ou à moins de 20 jours des Open, tu te dis, est-ce que je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je dois faire? Ou tu te poses la question de qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer pour les Open? Eh ben, c'est que t'es pas très intelligent et que tu t'es posé la question bien trop tard. Parce que les Open, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure très intelligemment, bah, ça se prépare des mois à l'avance. C'est pas quelque chose qui, si tu es compétiteur, hein, je parle, mais si tu es une personne lambda qui s'entraîne un peu tous les jours ou qui n'est pas forcément très assidu au niveau des entraînements, qui prend ça vraiment à la cool et qui prend ça dans l'esprit communautaire, festif, fête de la communauté que sont les Open, eh ben oui, tu peux faire. Il y a des petites choses que tu peux mettre en place, même à 20 jours, pas forcément qu'au niveau de l'entraînement physique, parce que voilà, ça sera très compliqué pour toi d'améliorer ton physique. À si court terme, tu peux améliorer ton skills, travailler peut-être des choses que les bar muscle-up, peut-être prendre un peu plus de temps à la fin des cours pour les améliorer, les DU, les choses que tu sais qui peuvent tomber aux Open. Également en nutrition, Mims en parlera mieux que moi, mais il y a des petites routines. D'ailleurs, on a posté une vidéo sur le compte Instagram de Mims et de Wiss Training en collaboration sur 5 conseils que Mims vous donne pour améliorer ta nutrition, pour mieux récupérer, performer et également bah voilà, pouvoir mieux dormir ou d'autres choses que vous verrez sur cette vidéo. Et ben oui, dans ce cas-là, tu peux améliorer des choses dans cette fenêtre de 20 jours. Mais si tu es compétiteur, c'est-à-dire dans le sens où tu veux vraiment performer, où c'est quelque chose d'important à tes yeux et que tu te poses cette question à 20 jours des Open, eh ben c'est vraiment trop tard. Les Open, c'est quelque chose qui doit se prendre, même la saison, parce que les Open, c'est le début un peu de la saison des CrossFit et des qualifiers, c'est-à-dire des compètes qui vont proposer des workouts de qualification. Donc, c'est bien d'être en forme aux Open et généralement, tu le conserves par la suite et ça peut t'aider pour la suite de ta saison. Eh ben, c'est quelque chose que tu dois prendre à long terme, des mois avant, c'est-à-dire avec une grosse période cardio où tu vas vraiment bosser ton aérobie, ton endurance fondamentale ensuite. En faisant beaucoup de skills, peut-être en travaillant tes points faibles, et ensuite petit à petit, tu vas incorporer des choses CrossFit. C'est-à-dire que le CrossFit prend de plus en plus de place dans ton entraînement avec des combinaisons, également le barbell cycling. Mais ça ne sert à rien de t'entraîner de la même façon toute l'année, parce que dans ce cas-là, bah, tu progresseras beaucoup moins. Et moi, en tout cas, mais c'est mon avis. Je laisse ta parole à Thibaut ou à Mim, je ne sais pas.
Vas-y, Thibaut.
Non, moi, j'allais dire, il y a un truc dont on avait discuté il y a longtemps, Will, et c'était plutôt d'un point de vue programmation, où tu disais que travailler et prendre de la force, c'est un travail qui prend, pas une éternité, mais presque, c'est-à-dire que c'est un travail de fond que tu es obligé de faire tout au long de l'année, pendant des années complètes pour arriver à ton niveau actuel. Ça a pris des années et des années et des années de travail.
Ouais, ça c'est bien vrai, tu m'y fais penser, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, il y a une période où tu viens travailler ton cardio au tout début de saison, au tout début de ta période de fond, où tu as ton endurance fondamentale, et là tu peux en profiter pour travailler ta force, mais également avec des cycles, c'est-à-dire une période où tu vas plus bosser la technique, le tirage, le squat, ensuite incorporer plus de mouvements techniques. On s'inspire vraiment de ce qu'au font les spécialistes de l'haltéro, hein. Il n'y a pas de secret là-dessus. Le CrossFit, moi je vois ça un peu comme le décathlon en athlétisme, c'est-à-dire que l'important c'est de prendre un peu les infos dans toutes les spécialités et auprès des spécialistes dans toutes les discipline qui regroupe le CrossFit, même si c'est compliqué des fois, et c'est vraiment quelque chose de fond, c'est un travail de fond, et arriver à 20 derniers jours, bah les choses que tu peux améliorer, elles sont restreintes. Bon, bien sûr, la mobilité, il y a le cardio, c'est compliqué, même si on peut toujours faire quelque chose de bien.
J'allais te poser la question, et là je le prends presque pour moi personnellement, genre en conseil direct que je demande, une espèce de petite coaching privé que je prends, tu vois. Est-ce que là, à 20 jours de l'Open, si je tourne un peu ma prog et que je fais beaucoup plus d'engine comme toi, tu les programmes dans Wiss Engine, tu vois, et que je pousse un peu ça, est-ce que tu ne penses pas que je, pour quelqu'un de mon niveau, je peux grimper de quelques petits pourcents et ma capacité cardio,
toujours,
entre guillemets, pour l'Open?
Ce sera toujours mieux de faire quelque chose que de rien faire. Ça, c'est-à-dire que tu progresseras toujours. Il y a deux teams dans la vie, il y a ceux qui font et ceux qui font pas.
Je fais pas rien,
donc... ok. Non, voilà, c'est ce que je dis toujours aux gens quand ils me disent « Ouais, mais j'ai pas le niveau, quoi ?» Je dis « Je t'arrête de suite, il y a deux teams, ceux qui font pas. » Et il n'y a pas une question de « Moi, je fais moins que toi parce que je fais quelque chose en scale ou avec moins d'intensité, moins de volume. » Bref, il y a deux teams. Et tu pourras toujours améliorer quelque chose et tu pourras toujours en tirer quelque chose de positif. Après, à ne pas en faire trop. Si vous êtes dans les 20 jours, c'est-à-dire bah, juste avant, il ne faut pas vouloir en faire trop pour rattraper ce retard, parce que là, vous risquez d'arriver complètement cramé.
C'est ma prochaine question.
Ouais, bah, c'est pour ça, il faut le voir intelligemment, peut-être pas, comme j'ai dit, des skills, et ben, bosser ta mobilité, parce que ta mobilité peut t'aider énormément sur les mouvements latéraux, elle peut te permettre de, peut-être d'améliorer ta technique sur les mouvements latéraux et donc bah, de la, mieux la mettre en place et peut-être de soulever plus lourd au moment des open s'il y a un max ou s'il y a du cycling à des poids modérés ou peut-être gagner de l'énergie. Bref, il y a plein de choses à mettre en place et toujours de faire quelque chose, ce sera toujours plus bénéfique que de ne rien faire.
Moi, je suis d'accord avec la partie skills dont parle Willy.
Attends, on va en parler après. Spoil pas trop.
Non, vas-y. Dans cette manière de pouvoir encore, sous cette fenêtre qui est restreinte, améliorer quelque chose, dans les séminaires CrossFit Level 1, on fait la différence entre la force, qui est l'application productive de la force, donc pure et dure, et on a aussi la force en CrossFit, telle que CrossFit la considère. Et de manière globale, en fait, c'est souvent la jonction de l'application ou les capacités neurologiques et les capacités organiques des personnes. Donc, tout ce qui est force, entraînement, c'est d'une part. Mais en fait, toutes les applications neurologiques, tout ce qui concerne la coordination, la précision, eh ben, c'est des choses qu'on peut encore bosser et qui ne pompent pas l'énergie ni le nerveux et sur lesquelles, en fait, on peut vraiment s'améliorer. Et dans les séminaires, par exemple, on a, par exemple, 30 minutes où on va travailler un drill sur, c'est très simple, hein, de muscle-up, transition muscle-up, etc., où on vient incorporer des phases de teaching du muscle-up pour les personnes qui y participent et les personnes qui ont la force de faire des tractions strictes et des ring dips strict, on les invite à essayer les muscle-up alors qu'ils n'en ont pas. Et en 20 minutes, ils ont amélioré leur production de force puisqu'ils arrivent à faire un muscle-up. Donc en fait, je pense que ces 20 jours peuvent être aussi servir à ça. Est-ce que si on passe de, par exemple, 5 DU à 20 DU, c'est quelque chose de gagné? Mais sans pour autant se tuer, mais on peut apprendre neurologiquement à assimiler juste en tournant les poignets, sans pourtant sauter, etc. Et incorporer des schémas de mouvement intéressants pour l'open. Donc ça, je pense que c'est toujours quelque chose qu'on peut gagner pendant ces 20 jours.
Donc peut-être regarder la liste des mouvements récurrents de l'open et les plus techniques, essayer d'incorporer un petit travail technique et neurologique pour essayer de pratiquer, pour pouvoir ensuite performer un petit peu mieux dans les watts de l'open et se sentir un peu moins à la ramasse sur ces mouvements. C'est cool. Et justement, Will, toi, tu parlais de prendre un peu plus de repos sur ces 20 jours, moins en faire, etc. Dans pas mal de sports, quand je sais pas, tu fais un marathon ou quand tu as une échéance, etc., souvent, on parlait de taper week. C'est vraiment la semaine où tu diminues le volume juste avant. Limite, ce n'est pas que tu fais rien, mais tu as très peu d'entraînement, tu bouges un peu pour que le jour de la compète ou le jour du WOD, tu aies la patate et tu puisses vraiment neurologiquement mettre tout ce que tu as. Est-ce que c'est quelque chose que tu appliques pour l'Open, toi? Ou est-ce que tu le recommanderais à un athlète un peu plus novice? Vous trois d'ailleurs, je pose la question à vous trois parce que vous avez tous de l'expérience avec les sportifs de haut niveau.
Alors la taper week, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a beaucoup d'études là-dessus et beaucoup d'avis divergents parce que on essaye au CrossFit de trouver un peu la recette miracle et qui marche bien, mais c'est compliqué. Et même des fois, en fait, cette taper week, des fois, elle peut être complètement inutile si avant tu t'es mis un volume ou que tu étais en surentraînement ou que tu as dépassé la limite ou même que tu arrives complètement cramé. Tu peux être en surentraînement complet et prendre une taper week. Tu verras qu'après, tu seras pas en pic de forme. C'est le gros problème. Donc, je dirais que la taper week est super importante et très intéressante et je l'applique pour même, il n'y a pas qu'une taper week, c'est-à-dire les semaines avant, il faut les faire intelligemment pour que cette taper week ait un effet optimal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu réduis le volume, l'intensité, elle augmente, le nombre de reps est compté au niveau des charges, des reps et tout, et tu viens vraiment bosser intelligemment pour que cette taper week ait le maximum d'effet. Et même moi, j'aime bien encore la mettre un peu plus avant que la semaine avant ta compète pour reprendre un peu d'entraînement, te remettre un peu dans le jus convenablement pour ensuite être vraiment au top, arriver à la compétition. Mais ça, c'est propre à moi-même. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent différemment. Matt Fraser, il aimait bien aussi bosser comme ça. Lui, il était un peu encore plus extrême dans le sens où il coupait pas mal de mouvements pour éviter de se blesser dessus au niveau de la gym, des trucs comme ça, pour éviter de s'abîmer les mains. Mais ça, lui, c'est également propre à lui-même. Et ça, c'est encore une fois quelque chose de compliqué à maîtriser, qui va vraiment être différent avec chaque personne et il n'y a pas vraiment de recette miracle, mais c'est vrai que c'est super intéressant, il faut l'appliquer si ton but c'est performer une compétition ou au quart de finale ou aux open. Mais pour les open, je l'applique absolument pas. C'est-à-dire que moi, le WOD open, je vais arriver à la boxe le vendredi, le jeudi j'aurai fait mon active recovery, le vendredi matin je vais arriver, je vais souvent peut-être m'entraîner normalement et ensuite faire le WOD open. Voilà, c'est vraiment quelque chose comme ça, parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas mon intérêt ni ma volonté. Ça fait mal à l'ego parce que t'as pas envie de te faire battre par tout le monde, mais bon, il y en a certains, ils vont me battre, c'est tant mieux, ils prendront des gros bols de confiance et on verra par la suite.
ou par la suite, ils seront meilleurs que moi. Et là, dans ce cas-là, félicitations. Mais pour mon cas, ce n'est pas intéressant. Pour d'autres personnes, ça peut être intéressant pour des gens lambda qui visent de passer une bonne performance à l'Open, de peut-être pas avoir une taper week dans le sens où je suis un athlète qui a une planification super précise parce que ce n'est pas leur cas, mais peut-être de lever le pied un peu la semaine avant. Voilà, c'est pour vraiment, on va dire, faire du jus, comme ils aiment bien dire des fois dans le sport, faire le plein d'un flux nerveux. Ne pas rien faire, c'est super important, parce que si vous faites rien, ça peut vous poser des problèmes. Faire peut-être un peu de l'haltéro à des pourcentages très réduits, 70-75% grand max, en augmentant la vitesse d'exécution, en diminuant le volume de rep. C'est pas pour bosser à 70% et faire des 10 x 5 toutes les minutes en émum. Là, on vient vraiment travailler la vitesse, la précision technique, comme je l'ai dit, faire plus de mobilité, faire plus de skills. Et petit à petit, en se rapprochant des Open, et se sentir prêt, se sentir en forme. La Taper Week n'aura aucun effet si vous ne l'acceptez pas dans votre tête. Moi, je crois pertinemment que la tête contrôle le corps et pas l'inverse. Donc, il faut également se convaincre que ce qu'on fait, c'est bien et va nous permettre d'être en forme. Quelqu'un qui se convainc qu'il est en forme, il a de grandes chances de l'être.
Mais parce que j'avais déjà parlé à des athlètes des Games en leur demandant c'est quoi pour toi le pic de la saison ? Parce qu'en gros, tu structures avec des micro-machins, des macro-cycles, etc. En tout cas, c'était à l'époque, c'était l'école de la prépa physique, c'était les micro-cycles, les macro-cycles, etc. pour à un moment donné performer au JO ou je ne sais quoi. Mais le truc, c'est qu'en CrossFit, tu dois être au pic tout le temps. Tu as des événements
Pas forcément. Franchement, là-dessus, je te laisserai la parole après, Tim, mais plus tu auras une grosse différence entre ton pic de forme de la saison et ta off-season, ton moment où tu n'es pas en forme, plus ce pic de forme va être haut. Si tu te maintiens régulièrement à un niveau, à une ligne médiane, on va dire, de ton niveau, tu ne pourras pas avoir un pic de forme super haut, c'est-à-dire vraiment qui va te permettre de performer, d'exploiter à 100% ton potentiel. Alors que si tu as une off-season où tu es vraiment en méforme, où tu laisses te reposer et que tu fonctionnes avec des micro-cycles ou des cycles intéressants, tu vas fonctionner par palier, par étape, et ton pic de forme, tu vas pouvoir le taper bien plus haut. Et ça, on ne l'a pas inventé au CrossFit, ça vient des autres sports. C'est pour ça que c'est important d'avoir une off-season, c'est important d'avoir des moments où tu coupes complètement. Et moi, pour ma part, j'aime bien fonctionner, en tout cas, j'ai découvert ça sur le tard, malheureusement, par des micro-cycles de 4-5 semaines. C'est ultra intéressant parce que ça te permet d'avoir cet effet palier où à chaque fois ta week 1 elle est plus basse et en fait à chaque fois tu fais un espèce d'escalier qui te permet de monter de plus en plus en régime et c'est assez incroyable, ça te permet vraiment de te sentir bien. Il faut accepter avoir des semaines où tu redescends plus bas, mais c'est vrai que si tu es en forme toute l'année, tu n'arriveras pas à performer fort à un moment. Et ouais, ça, on l'a vu avec pas mal d'athlètes.
Je disais non, je sais que tu vois.
C'était une question.
Tu avais beaucoup de compétitions en CrossFit et un athlète lambda, il a besoin de performer, de se montrer dans les compètes, de gagner des prize money, etc. Et là, tu avais, à l'époque, tu avais Dubaï, Vodapalooza en janvier, tu as l'Open, tu as les quarts, tu as les demi, tu as le French, tu as le machin,
tu as les games. Regarde, moi, je pense qu'il y a une corrélation. Il y a une corrélation entre, regarde, les athlètes que tu vois dans toutes les compétitions toute l'année et qui font des performances très, très correctes et ceux qui gagnent les games, ce ne sont pas les mêmes. Si tu regardes bien, c'est vraiment différent. Et ça, c'est... Par exemple, moi, je prends l'exemple d'un Roman Krennikov que j'adore, qui est un athlète incroyable. Mais pour moi, sa performance aux games, il était à 90% de ce qu'il pouvait vraiment faire. Parce que toute l'année, il a été à ce 90%. Ou toute l'année, il oscillait entre 80 et 90%. Alors que s'il s'était laissé à 70%, ou je sais pas, 60%, bref, à des moments, et qu'il était monté crescendo comme l'a fait Justin Medeiros, là, il aurait pu taper sur son 100% de potentiel au moment des Games, et là, il aurait pu faire très, très, très mal. Et également, un Ricky Gard, là, on l'a vu au Dapalooza, il est en forme, mais je pense pas qu'il est au top de sa forme. Et ça, ces athlètes qu'on voit toute la saison, alors c'est tout à leur honneur, parce qu'on sait qu'il y en a qui ont besoin de gagner de l'argent et qui le font pour des intentions honorables, parce qu'ils ont envie de vivre de ça et que ça leur permet de vivre de ça. Et ça, je trouve ça génial. Mais après, je pense que c'est la même question qu'on doit se poser, que Fraser, il a posé à Mallory O'Brien. Qu'est-ce que tu veux vraiment performer au Dapalooza, à d'autres compétitions qu'on voit un peu partout, ou tu veux vraiment gagner les games ou au Rogue Invitational? Parce que je pense que si elle a pas fait les Rogue Invitational, moi je serais les concurrentes de Mallory O'Brien, je commencerai à avoir peur. Je me dis putain, elle a été
pas au Rogue. Exactement la raison de pourquoi elle a pas fait les
Rogue. Ouais, je me doute, mais voilà, c'est ça. Et voilà, les athlètes qui performent toute l'année, généralement, ce sont pas ceux qui performent vraiment fort aux games. Mais même s'ils arrivent à performer à très très haut niveau, tout est relatif quand je dis ne pas performer aux games. Roman, il a fait une performance incroyable, mais pour moi, je pense qu'il vaut mieux que ça.
Alors là, on a parlé du gars des Games ou du gars qui a un sacré niveau. Type Mims, qu'est-ce que vous suggérez pour pas l'athlète, l'athlète lambda, la personne qui s'entraîne dans la boxe pour sa condition physique, etc., pour s'amuser, et l'athlète dans les boxes qui est un peu plus expérimenté, etc. Mims, tu recommanderais quoi toi pour ça?
Thibaut a l'air chaud là.
Ah,
Vas-y,
Thibaut, il avait
Thibaut.
l'air bouillant,
J'étais
vas-y.
chaud de ouf. J'étais chaud de ouf. J'avais enlevé mon. Bref, allez, j'y vais. Déjà, il y a plusieurs choses. La première, c'est que en tant qu'athlète purement amateur, c'est essayer pendant les dernières semaines avant l'Open de se remettre dans des workouts type Open de temps en temps. Donc, ne pas faire que ça, mais peut-être une fois tous les 10 jours, faire un WOD dans lequel vous mettez dans l'intensité Open. Tous ceux qui ont déjà fait l'open comprennent ce que je veux dire par là. C'est-à-dire, les WOD Open, ils ont une saveur un peu particulière, ils laissent vraiment une trace. Tu te sens vraiment mal à la fin et tu comprends pas trop pourquoi. Parce qu'ils sont vachement bien programmés. Donc, c'est faire ce genre de workout pour commencer à se mettre dans cette intensité-là. Et ensuite, juste avant, donc le WOD est annoncé en général le jeudi soir. Vous allez le faire le vendredi ou le samedi, j'imagine. Ce serait par exemple de faire le jeudi un jour de Active Recovery Day. D'aller nager un petit peu ou faire du vélo, tout ça pour déverrouiller les jambes et ne pas se mettre un workout le mercredi où vous éclatez avec, vous arrivez vendredi avec des courbatures de partout, mais potentiellement faire le type d'entraînement que Will fait en général le lundi qui est un minimum 40 minutes qui va vous faire mal sur le coup mais qui laisse pas spécialement de traces en fait le lendemain. Par contre, vous bougez tout, potentiellement vous pouvez même mettre dans cet minimum 40 des mouvements dans lesquels vous n'êtes pas spécialement à l'aise et qui sont des mouvements qu'on peut voir tomber à l'open si vous n'êtes pas très bon sur les toes to bar ou sur les double under. Eh ben, vous mettez dans une des minutes, vous mettez des reps de ces mouvements-là. Donc ça, vous allez travailler justement le skill sur ces mouvements-là juste avant l'open, encore une fois. Vous avez votre jour de repos le lendemain et puis vous êtes frais pour y aller le vendredi, par exemple, et le faire dans votre box. Voilà, donc ça serait ma vision. Et je sais qu'après, on parlera de mobilité dans une autre question.
Oui, on aura plein de choses à dire là-dessus. Vas-y,
Moi,
Mims.
j'ai plutôt l'anxiété de l'open. Et donc, moins je m'y frotte et mieux je me sens. Et je préfère mettre l'intensité au moment de l'open et le WOD. Donc, j'aime pas trop faire des ridous. Typiquement, je sais pas pourquoi. J'aime bien faire des WOD type. Comme ça me permet de savoir où j'en suis. Je fais un couplé, un triplé. Je vois si je souffre, si je souffre pas. C'est quoi mes temps par rapport au reste. Par contre, j'essaie de m'y coller le moins possible parce que ça me met une anxiété de fou. Et en fait, ça me fait stresser. Donc, je préfère faire l'autruche, m'entraîner normalement. Et avant, par exemple, la semaine de l'Open, en début de semaine, je fais un peu de force de manière globale, mais quelques jours avant. Et après, je vois ce qui se passe. Je fais pas trop, je fais un deload dans la semaine. Je bouge, mais pas dans l'intensité haute. Et le WOD de l'Open, j'envoie la sauce à ce moment-là. À ce moment-là. Voilà, pour
J'allais dire
l'intensité.
une erreur à pas faire. Donc, quand je disais de faire des WOD type open, c'est surtout pas de faire des WOD, des ridous d'anciens WOD. Parce que si vous faites ça, vous allez vous mettre minable. Vous allez déjà, un, vous comparer à vous-même de l'année d'avant ou de l'année encore d'avant. Mais par contre, vous
Oula,
prenez le
me lance pas
workout.
sur le sujet, je suis chaud. Hein. Me lance
Mais
pas
par
sur le
contre, ce que
sujet,
vous
je suis
pouvez
chaud.
faire, c'est que vous prenez le workout et simplement vous faites une variation du format ou du time cap, peu importe. Ce
Je
qui fait que
parle
du
déjà.
coup. Ce qui fait que du coup, vous pourrez jamais comparer votre score à votre ancien score. Donc du coup, le but, c'est de s'entraîner, c'est pas de refaire un WOD de l'Open. Okay?
Il y en a, ça les
Mais
motive,
c'est la
hein. Il y en
nuance.
a, et ils aiment faire des ridous et voir exactement leur progression pour pouvoir savoir la marge qu'ils vont avoir pour l'Open, en
Est-ce que
fait.
ce serait pas se rassurer? Est-ce que c'est pas simplement un problème d'ego
Complètement.
que de faire des ridous pour simplement rassurer et se dire qu'on est dans la bonne direction alors qu'on peut le croire et
Peut-être.
simplement s'entraîner en suivant le plan?
Si ça a
C'est
un avantage psychologique, en vrai, si ça te met
Mais
dans
je...
une bonne prédisposition pour le
Moi,
WOD de l'Open.
ça met simplement pour un compétiteur, je parle pas pour une personne
Ouais,
lambda, faire un ridou
c'est.
comme ça en abondance à l'approche des Open, c'est simplement un manque de confiance. Je dis ça parce que je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de ridous à l'approche des Open. Et ben simplement, au bout d'un moment, j'ai analysé. C'est simplement parce que j'avais pas confiance en moi, que j'avais besoin de me rassurer, que je suis plus fit que l'an dernier, que je suis plus en forme. Et simplement, ce que tu fais, c'est que tu tapes dans ton système nerveux et tu te mets moins en forme. Alors du coup, tu rassures ton ego, tu rassures ton mental, mais ça te fait pas du bien au physique et ça te fait surtout, ça va pas améliorer ta performance pour la suite. Donc les Jean-Michel Open Ridou. Au bout d'un moment, vous nous gonflez sur les rélos. À vous dire, 2011, 312 reps, 2022, 412 reps, plus 12, ça marche le crossfit. Ben oui, Jean-Michel, que ça marche le crossfit, on t'a pas attendu pour le savoir. Mais ça sert à rien et ça gonfle simplement votre ego. Et il faut prendre ça de côté et vous dire, j'ai un plan. Pour que ce plan fonctionne, la première chose, c'est y croire. qu'il soit bon ou mauvais, je pars du principe qu'un plan conçu à 100%, il aura des effets bénéfiques, même si c'est un plan de merde. Et au bout d'un moment, il faut croire à ce que vous faites. Avoir confiance en vous, bah, ça peut peut-être passer par de l'aide avec un préparateur mental ou peu importe. Ça peut marcher, mais surtout croyez en votre plan. Et si vous êtes compétiteur, ça c'est ce que je dis, c'est pour un compétiteur. Hein, ne le prenez pas pour un. Croyez pas que je suis un fou à dire ça à Jean-Michel qui veut simplement découvrir le CrossFit et être en meilleure santé. Hein. Mais voilà, il faut croire en ce que vous faites et vous donner les chances de réussir. Et ces chances de réussir, elles passent par le fait de travailler et pas se mettre des grands démontages sur des ridoux parce que ça va vous démonter, vous peut-être vous mettre en surentraînement et avoir des effets complètement inverses à ce que vous souhaitez pour votre entraînement. Donc, désolé, Mims, mais j'étais trop chaud pour
parler. Jean-Michel Ridoux.
Il fera une apparition dans une vidéo YouTube, on en a parlé, Julien.
Jean-Michel Ridoux. Mais je pense que les WOD de l'Open, en vrai, il faut les traiter comme des benchmarks. Si vous connaissez les girls, les benchmarks, les Fran, Karen, etc., imaginez que vous vous faites 3 semaines avec que des benchmarks et pour vous préparer à ça, vous faites d'autres benchmarks. C'est juste pas possible neurologiquement de faire ce genre de truc. Et comme tu disais, Mims, il faut que ça reste quand même un plaisir, cette affaire. Donc, il faut arriver sur les... En tout cas, pour la plupart des gens, hein, pas pour toi, Will, parce que ce n'est pas du tout un plaisir, je pense. Mais pour la plupart des gens, il faut se faire plaisir dans ce qu'on fait, quoi. On est là, le CrossFit, c'est la condition physique, déguisée dans du plaisir et du fun avec sa communauté. Si vous ne prenez pas de plaisir, c'est qu'il y a un problème avec votre manière de vous entraîner. Voilà. Sur le prochain thème... La nutrition et le sommeil. Et tu disais tout à l'heure, Will, que vous avez fait une vidéo avec des petits conseils avec Mims, mais je sais qu'elle est restée très succincte.
Allez la voir.
J'ai divisé par 3 le temps de la vidéo pour que vous puissiez la regarder.
Et... Ouais. À la base, pour ceux qui veulent savoir, la vidéo durait 6 minutes et quelques et c'était super
7
intéressant.
7 minutes 47.
Et avec Flo, qui bosse pour WIS, on était là, on n'osait pas couper quelque chose parce qu'on se disait... Si elle a dit ça, c'est que c'est important, c'est que c'est intéressant. Et Mims, on ne veut pas la contredire parce que déjà, elle a raison. Et de deux, elle va nous prouver par 25 000 arguments qu'on n'a pas à la contredire. Et au final, on ira faire coucou panier. Donc, on n'osait pas couper les arguments. Et non, mais c'était super. En toute honnêteté, c'était super intéressant ce que tu disais. Et je pense que là, ça va être l'occasion pour toi de préciser tous les points particuliers que tu avais précisés dans cette vidéo. Et franchement, si vous êtes compétiteur ou pas compétiteur ou que... Simplement, la nutrition ou votre santé vous intéresse, allez voir les 5 conseils qu'elle vous donne. Ça prend 2 minutes. Et croyez-moi, et bah, suivez-la sur Instagram parce qu'elle démonte aussi un peu les stéréotypes qu'on a dans la nutrition et ça peut vous faire avoir de bons réflexes pour vous et votre santé. Et ça, c'est le plus important encore que la performance, même si la santé est une performance.
La légende dit même qu'il y en a un 6e de conseils.
Il y a 6 tips, mais moi, j'en compte 8. Mais en fait, il y en a 4. En fait, il y en a des centaines. Mais oui, tu parles de plein de trucs là-dedans, tu parles de la nutrition, du sommeil. À un mois de l'Open, c'est difficile de remettre en question son style de vie. Mais comme tu disais, je ne sais plus si c'est Will ou Tib, on peut quand même bosser sur son sommeil, par exemple.
Ouais.
En sommeil, qu'est-ce que tu nous recommanderais? Parce qu'en général, franchement, on stresse beaucoup dans l'Open, qui qu'on soit. Hein. Quel que soit ton objectif, si c'est ta première fois ou ta 15e, tu stresses. Comment est-ce que je peux faire pour mieux dormir? Est-ce que je peux mieux dormir maintenant? Qu'est-ce que tu conseillerais?
En fait, c'est surtout d'agir sur la base de la pyramide. C'est que tout le top, c'est l'entraînement, le training, etc. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément toucher. Et donc, c'est d'aller descendre la nutrition. Elle est presque au centre de ça. Et c'est de se dire, là aussi, c'est quand même difficile d'y toucher puisqu'on s'approche du moment de la compète. On ne peut pas tout chambouler. Est-ce que le fait de changer à 20 jours sa nutrition va avoir un impact sur le jour J? Non. Par contre, de faire des tests pour comprendre... si on augmente un petit peu certains apports, est-ce qu'on sent mieux? C'est peut-être le moment de pouvoir mettre tous les atouts de ce côté, mais on ne pourra jamais changer ça drastiquement. Et la base de cette pyramide, elle est comportementale. Et donc, de pouvoir agir sur son comportement, même à 20 jours, peu importe, on sent, même si pendant une semaine on dort bien, la semaine d'après, on sent forme et on voit tout de suite des effets positifs. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir. Et donc le premier conseil c'était le sommeil, c'était surtout de pouvoir se coucher à des heures régulières et se réveiller à des heures régulières de sorte à ce que le corps il respecte ses rythmes biologiques. Ses principaux rythmes c'est le soleil et le coucher du soleil et ça synchronise toutes les productions hormonales qu'il va avoir durant la journée et aussi durant la nuit. La nuit, par exemple, les hormones de croissance, etc., minuit, 1 heure, c'est des choses qui doivent être actives à partir de minuit, 1 heure. Si on n'est pas encore couché à cette heure-là, on passe à côté d'une grande récupération qu'on pourrait avoir pour les semaines à venir. Donc forcément, ça te permet d'être dans une situation de succès. Donc c'était synchroniser son système, se coucher, se lever à des heures régulières, de pouvoir surtout dès le lever s'exposer à de la lumière pour pouvoir donner au cerveau cette information de lever et d'activité, et de baisser les lumières. Ben, par exemple, là, ben, on n'est pas forcément bon, on a de la lumière qui vient du dessus, et il est tard, entre guillemets, le soleil est déjà couché. Donc là, normalement, on devrait réduire un maximum toutes les lumières au sein de son appartement, de sa maison, et de se dire qu'on va commencer à aller préparer la chambre, et peut-être ouvrir la fenêtre pour qu'elle soit fraîche, et de sorte à ce que quand on va se coucher, déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est enlever les lumières bleues, tous ces stimuli au moins 2 heures avant. Comme ça, on a plus... la lumière bleue, c'est ce qui tient éveillé, donc les écrans. Donc, on les baisse. Et à ce moment-là, quand on va se coucher, pas d'écran, mais plutôt un bouquin. Et la chambre, elle est prête. Et normalement, en moins d'une demi-heure, on est couché. Et si ça ne marche pas naturellement, il peut y avoir des aides. Il y a plein de choses qui fonctionnent bien. Il y a des plantes qui permettent de pouvoir accéder au sommeil. Il y a des choses comme la passiflore, camomille, ce genre de choses qui activent le stress.
Et attends, je clarifie, c'est pas des plantes qu'on a dans un pot. C'est des plantes qu'on boit ou...
des plantes en complément, des tisanes, par exemple. C'est drôle, c'est là. Ouais, c'est intéressant. Il y a des choses aussi, si maintenant, vraiment, on est quelqu'un qui a une problématique avec... le sommeil et en plus qui s'entraîne beaucoup, c'est la mélatonine, c'est quelque chose qui a été étudié. On a souvent critiqué ça parce que c'est une hormone avec laquelle on peut supplémenter, et on l'utilise en général avec les jet lags, mais aujourd'hui rien n'a montré que ça avait même en supplémentation.
Et Mime, c'est une question qui revient souvent là, c'est en rapport à ce que tu dis. Bon, la mélatonine, moi, j'avoue que j'utilise ça parce que j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à déconnecter. Type aussi, mais il est encore au step d'après. mais il y a plein de crossfitters, et moi y compris, je t'avais posé la question. Pour améliorer ton sommeil, est-ce que c'est vrai ou c'est une légende, même si je pose la question comme si je savais pas la réponse, mais à quelle heure il faudrait manger, ou quel réflexe à avoir dans son repas du soir et en incorporant l'heure à laquelle il faut manger pour avoir un meilleur sommeil? Parce que ça peut servir à pas mal de monde, ça, pendant les Open, avec peut-être avoir un meilleur sommeil plus tôt, parce que c'est vrai que des fois, quand on mange tard et n'importe quoi, on est complètement... on n'arrive pas à dormir et le sommeil n'est pas bon, quoi.
Oui. En général, on dit on déjeune comme un prince et on dîne comme un pauvre. En général, c'est à peu près ça. Mais avec une activité sportive intense, on va quand même aller ramener des bons apports, surtout en féculents, ce genre de choses, pour le dîner. Par contre, les protéines, c'est quelque chose qui est difficilement digeste, surtout si on se met en bascule. C'est-à-dire qu'on se met assis, on se met couché sur le canapé. Et dans ce cas-là, ça devient complexe à digérer. Et ça veut dire qu'on emporte ça dans son début de sommeil. Donc, on n'est pas forcément dans l'état de dormir. Donc, 3 heures, 4 heures avant dîner. Et après, vous allez vous coucher. Ça vous permet de rester en activité, de pouvoir commencer et aborder la digestion de la meilleure manière. Surtout les choses les plus complexes à digérer. Et d'avoir un vrai sommeil qui n'est pas... qui vient privilégier la récup et pas la digestion, par exemple.
Et il y a un truc dont tu m'avais parlé, c'est la caféine, parce que les crossfitters, quand même, ils boivent beaucoup de café.
Oui. Non, c'est pas vrai.
Et par exemple, ils vont prendre des pré-workout, des machins comme ça, ouais. Et des trucs, il y a de la caféine dedans. Moi, ça m'est déjà arrivé d'en prendre un assez tard, dont aujourd'hui, par exemple.
Ouais, j'allais dire, est-ce que tu poserais pas la question pour maintenant, toi? Est-ce que ça peut te servir?
Ouais, toi, t'es foutu pour ce soir.
Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, Julien fait des pompes. À chaque fois qu'il parle pas, il fait des pompes.
J'ai les yeux qui font des bons et tout ça. Mais là, moi, je remarque vraiment, et je pense que même les gens qui boivent des cafés tard le soir, qu'il y a un vrai impact entre l'heure et la quantité de caféine que tu prends dans la journée. Est-ce que tu as des recommandations par rapport à ça?
Oui. Oui, en général, on arrête le café 7 à 9 heures, tout dépend, avant son heure de coucher.
Je vais me coucher à 3 heures.
Donc, si de manière générale, on devrait arrêter vers midi, 13 heures, 14 heures, pour s'assurer que le soir, on ait un sommeil qualitatif. Le problème avec la caféine, c'est que... je ne vais pas parler des effets chimiques, quoi que ce soit, on n'a pas forcément le temps là, ici, mais en soi, ça ne permet pas le déroulement du sommeil correct, puisque la caféine occupe les récepteurs en question qui vous permettent de bien dormir. Donc, voilà.
Donc, se lever et se coucher à des heures assez fixes. D'ailleurs, je pense qu'on peut utiliser l'open comme une stratégie pour optimiser un peu son style de vie et se mettre déjà des objectifs assez cool et puis se remettre. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez un style de vie qui a été mauvais qu'il faut le continuer. Comme disait Willy, il y a là ceux qui font et ceux qui font pas. Bah, utilisez l'open pour faire en vrai. Et
Ouais.
pourquoi
Jamais
pas.
dire je commencerai à telle date ou quoi, vous commencez maintenant si
Je
vous avez un
commence ce
truc que vous avez
soir.
envie de faire. Ah, au bout
Non,
d'un
on peut
moment.
dire, ouais, on peut déjà se coucher vers 22h30, 22h, parce que c'est un peu compliqué de se coucher avant, entre guillemets, pour avoir une vie sociale. Et
Et puis surtout, si tu as fait le vote d'open le soir, généralement tu
Ouais.
t'es pris une rhabdo et si tu as un max, bah tu dors plus.
Ouais, non, c'est ça aussi. En général, les personnes qui s'entraînent le soir, vous stimulez, du coup, vous avez beaucoup plus de mal à vous endormir. En général, on essaie d'avancer l'heure d'entraînement pour pouvoir avoir une vraie récup. On essaie de s'exposer au soleil pour aller avoir exposé et éteindre les lumières intérieures pour pouvoir
Les
se synchroniser.
Parisiens, le soleil, c'est la grosse ampoule qui vient de temps en temps en été.
Ouais,
C'est au
c'est
cas
ça, vous
où.
sortez de la cave à des moments. Et après, vous pouvez vous aider avec certains suppléments. Si c'est le soir, quoi qu'il arrive, vous pouvez commencer et essayer certaines choses. Il y a des plantes, donc soit des tisanes ou de temps en temps, c'est des gouttes qu'on peut rajouter dans de l'eau. Ça peut aider à aller calmer le système, apporter un meilleur sommeil. Il y a des champignons aussi qui fonctionnent bien, comme le reishi. Donc, c'est des plantes adaptogènes aussi qui peuvent vous aider à mieux dormir.
Pas hallucinogène, adaptogène.
Adaptogènes. Et sinon, des choses comme la mélatonine qui en plus peut vous aider. En gros, ça vous fait descendre votre température corporelle. Ça vous permet de vous endormir en
Ah,
général sous la
voilà,
demi-heure.
c'est ça que je voulais te demander, Mims, parce
Ouais.
que toi, tu me l'avais dit par rapport, on en avait parlé, il y avait Amélie et tout, et ça, j'avais trouvé ça super intéressant, j'avais direct été voir des trucs sur Internet, et cette histoire de température corporelle, ça joue énormément sur le fait de pouvoir s'endormir tôt. Si tu
Ouais.
baisses parce que la mélatonine, au final, ça diminue simplement ta
C'est
température
ça. C'est
corporelle,
le seul
mais
effet de ça.
qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour diminuer cette température corporelle qui va nous permettre de peut-être dormir?
Acheter un lit.
Thibaut, il connaît. Alors, Thibaut, il a en test hein, le lit qui rafraîchit. Du coup,
Exactement.
ça
Moi,
peut
j'ai
être
un
un
lit qui
bon plan.
rafraîchit, qui me
Je vais
rafraîchit
craquer.
personnellement,
Je vais
mais qui
craquer, putain.
refroidit, mais qui réchauffe ma femme à côté de moi, parce qu'elle a toujours froid. Donc, elle met sur chaud. Moi, je mets sur froid. Donc, moi, je me gèle et j'arrive à m'endormir un peu mieux. Et elle a chaud. Donc, c'est parfait.
Ouais, elle s'endort moins
C'est le
bien.
Mordor de chaque côté, quoi. Il y en a un, il veut pas aller de l'autre
Exactement.
côté.
Par contre, on ne se touche plus depuis.
Et ouais, donc la mélatonine, en fait, c'est ça son principal effet. C'est que ça vient diminuer la température corporelle pour accéder au sommeil. Et en général, c'est sous la demi-heure. Donc si vous prenez la mélatonine un peu trop tôt et que votre température descend alors que vous n'êtes pas au lit, ça ne sert pas à grand-chose. C'est dommage. Donc il faut vraiment calculer ça.
Donc la mélatonine, c'est pas indispensable. On peut, il y a d'autres choses, il y a d'autres leviers pour
Oui,
diminuer cette température
toujours.
corporelle. OK.
Comportemental d'abord. Et après, on va accéder à la nutrition aussi, parce qu'en fait, il y a aussi à savoir si vous ne mangez pas assez de protéines dans la journée, il y a des acides aminés qui vont vous permettre d'aller et d'accéder à un meilleur sommeil. Donc comportementalement, il faut agir. La lumière et aussi ce que vous faites avant d'aller vous coucher. Nutritionnellement parlant, il faut agir aussi. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui ne mange pas assez de protéines, qui n'a pas un panel d'acides aminés qui vous permettra de pouvoir aller améliorer la sérotonine avec son relais qui est la mélatonine? Et dans ce cas-là, déjà, vous êtes aussi en situation d'échec, entre guillemets. Et après, au sommet de la pyramide, vous allez sur de la supplémentation. Et là, vous vous faites aider glycine, mélatonine, des plantes. Vous avez beaucoup de choses qui peuvent aider au sommeil.
Et quelle heure max pour manger?
Au moins 3 heures avant son coucher.
Donc
Au moins.
18h30, 19h. Entre 18h30 et 19h30.
Franchement, plus c'est tôt. Après, il faut pas manger trop tôt. Il faut quand même que vous, il faut pas avoir faim la nuit aussi. Donc si vous commencez à manger à 17h mais qu'à minuit vous êtes réveillé parce que vous avez faim, c'est foutu là aussi, vous
Et
avez
quand c'est
chaud.
la
En fait,
faim
les
qui te réveille?
grands-parents, en fait, les grands-parents, ils avaient tout compris, quoi.
C'est vrai, hein,
Ouais. Mais tu sais
ils étaient
qu'au
cyclés.
Canada. Au Canada, ils mangent super tôt. Moi, quand j'étais allé chez
Ouais, aux
Michel Letendre
US.
avant les Games 2018, c'était repas 18h, 18h20.
Ouais, c'est
Et
correct,
ensuite, tu avais
18h20.
une phase de repos où tu te posais après le repas, ça chillait, ça parlait, même chez Street, hein, c'était souvent ça, hein, chez les parents de Street Streetrunner.
Ouais, les
Et ensuite,
Américains, ils
c'était
ont
bien parce que
un mode de vie plus tôt.
tu allais te promener ton chien, te promener dans le quartier et tout. Et ensuite, à 21h, 21h30, c'était tout le monde dodo. C'était un
Ouais.
truc incroyable. Par contre, à 5h du mat, tout le monde était debout. Et moi, généralement, c'est la faim qui me réveille, hein, pour être honnête, même le dimanche. Hein. Je me dis, oh, je vais
Ouais.
faire une grosse grasse mat, c'est le dimanche, oh, je vais pouvoir enfin dormir. Et à 7h, t'es comme ça, t'as faim, t'as la dalle, tu penses à tes œufs avec le
C'est
fromage.
que tu as passé une bonne nuit. Les personnes qui se lèvent et qui ont justement pas faim, Et souvent, en fait, ils sont là, ceux qui ont l'habitude de petit déjeuner et qui se réveillent un matin, qui se disent j'ai vraiment pas faim, c'est qu'ils ont passé une sale nuit, de manière globale. Et donc, si le matin, vous vous levez aux heures normales, hein, avec qui est synchrone au soleil, et que vous avez faim, c'est plutôt un bon signe, en fait.
Mais par contre, souvent, ceux qui dorment mal, ils vont avoir tendance à grignoter après toute la journée n'importe comment, en vrai.
Ah, ça, c'est sûr. Ah ben, à partir du moment où ils n'ont pas réussi à calibrer les hormones durant la nuit, et ben en fait, ils vont avoir à chaque fois ben, des hormones fluctuantes durant la journée, ils vont avoir des fringales, ils vont avoir envie de manger du sucre, leur pic de glycémie va faire des va et des viens, ils vont avoir du mal à gérer ça en fait.
Ok, donc pour résumer, en gros, on ne change pas des masses sa nutrition, peut-être on mange un peu plus de protéines du coup,
Et glucides?
et glucides pour compenser l'entraînement et se préparer.
Récupérer mieux et surtout ne pas être en déficit calorique parce que c'est pas le moment. On veut garder un apport énergétique pour la reconstruction, la récupération, mais aussi pour l'effort.
Et pour le sommeil, du coup, tu parlais de supplémentation, mais en vrai, il y a quand même deux, trois trucs à faire avant de passer à la supplémentation.
Comportement,
Ouais, faut
nutrition, oui.
mobilité.
Voir le
Un
sommeil, ouais,
peu
on va parler de mobilité.
les étirements avant de dormir, et
Ouais.
ça permet de diminuer le stress corporel. Et ça, moi, en tout cas, ça m'a aidé énormément des fois pour simplement, je fais un petit quotidien avant sur le tapis devant le lit, et ensuite tu te mets au lit, et c'est vrai que tu t'endors beaucoup plus vite.
Ouais,
Et
tu
là,
fais le
moi,
soir. Moi, je fais le matin, par exemple,
je viens d'avoir
aussi.
mon deuxième badge 4 heures, et là, je passe sur le 5 heures, et ça,
J'ai le badge
boum!
5000, tu peux pas tester.
Et en
Moi,
vrai, moi, personnellement, les challenges, ils
je
m'aident
commence sur
énormément
Goat.
sur Goodwood.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des challenges là sur Goat, c'est super cool. Moi, je m'en suis fixé un à 4 heures. Je pense que je vais être à l'échec il me reste 10 jours.
J'ai fait l'erreur de tout débutant, tu sais, genre l'erreur que je dis à
24
tout le
heures
monde de
chaud,
pas faire.
25 heures.
J'ai mis un objectif beaucoup trop par rapport à mes capacités et mon temps de.
Moi
Et
j'ai
du
mis
coup, je suis là,
minimum.
putain, jamais je l'atteins, mais j'ai mis 45 heures en 3 jours, mais c'était un peu bête.
Il y a un truc, c'est quoi? C'est le diamond. C'est combien d'heures?
C'est
C'est un truc de
25
fou.
heures. 25 heures dans le mois. Il y a
Super,
un
c'est
mec
un jour par
qui l'a
mois, quoi.
gagné. Il
Ah,
y a un
vous
mec qui
avez
l'a
pensé aux
gagné 10
chômeurs?
fois. Je vous jure, il y a un mec qui l'a
Je
gagné
suis
10
désolé, elle est
fois.
gratuite celle-là.
10 fois en combien de temps? C'est ça la question. Parce que
En
si c'est
un
10 fois
an.
en 10 mois, ah en un an,
Ouais, c'est
ok.
ça. Ouais. Donc, en gros, il a eu peut-être un mois où il était pas dispo. Il a fait que 20 heures dans le mois. Mais c'est une machine de guerre.
Ouais, c'est fou ça.
Il a le time.
Et ouais,
Je
d'ailleurs, en
kiffe
parlant de
beaucoup.
mobilité, tu recommandes quoi? Tu recommandes quoi, type?
Bah, en gros, le truc là, on est à quoi? On est donc, on a dit le 27, il reste 3 semaines. On va pas faire de vous des grands gymnastes souples en 3 semaines, c'est sûr. Mais par contre, on est capable de vous faire progresser entre 6 et 8% en un mois.
Attends,
Donc
6 et
honnêtement,
8% de quoi?
6 à
Sur la
8% sur un
mobilité,
score
sur
de
son
100.
score. Parce que nous, on veut des chiffres.
si vous... on veut des chiffres. Donc en gros, si vous faites votre test de mobilité sur l'application Goad, c'est complètement gratuit. Vous faites votre test, et bien ce score-là, vous pouvez le pousser de plus 6 à 8% en un mois. C'est ce qu'on voit nous dans nos stats en moyenne. Donc si vous êtes régulier dans votre approche de la mobilité et que vous faites un pré-WOD avant de vous entraîner et un quotidien le soir, avant de dormir, par exemple, comme ça vous cumulez ça et ça améliore votre sommeil, et ben vous pouvez voir des améliorations qui vont être faites assez rapides. Et ça va vous permettre et ben d'optimiser, d'avoir ce petit plus, ces quelques pourcentages de plus d'amplitude d'épaule ou de profondeur de squat ou d'amplitude de cheville, peu importe ce qui est votre problème, Gobot de toute façon pourra le détecter. Mais ça va vous permettre du coup d'avoir un meilleur positionnement en fait pendant vos mouvements. Donc pendant vos mouvements de l'open, et donc de moins forcer contre votre corps avant de lutter contre une charge externe. Donc on l'explique souvent comme ça, mais si vous n'êtes pas capable, votre corps il lutte contre lui-même déjà pour simplement faire un squat, comment voulez-vous que quand vous mettez une charge sur vous, vous arrivez à mettre une grande charge? C'est juste pas possible. Donc éliminez d'abord en fait les frottements, c'est-à-dire bouger sans aucune friction, et ensuite la barre va vous paraître encore plus légère. Et donc vous allez pouvoir charger plus lourd. Si c'est pas plus lourd, vous allez pouvoir aller plus vite, ou en tout cas être moins fatigué. Donc bref, vous allez plus performer. Donc ça, la mobilité, c'est hyper important. Et la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que c'est la mobilité en amont de l'open, mais ensuite c'est la mobilité qui va être faite juste avant le workout de l'open. Et là-dessus, on va lancer quelque chose qui va être gratuit pour tout le monde. En fait, on va bosser, nous, on va vous faire un protocole qui va être adapté à vos points faibles et au workout de l'open. Donc en fait, on va le faire en live. Dès qu'ils annoncent le workout, on le fait. On le met en ligne le plus vite possible. Et donc en fait, celui-là, Il est gratuit pour tout le monde. Faites-le parce que ces 10 minutes-là que vous allez passer avant votre workout, ça va vous déverrouiller les épaules, les hanches, etc. en fonction du workout. Je ne le connais pas encore. Et ça va vous permettre d'optimiser votre performance le plus possible pendant ce workout de l'Open-là. Et ça, vraiment, ne le négligez pas. Vous n'êtes pas à 10 minutes près. Vous allez bien vous échauffer dans tous les cas, mais faites-le. C'est gratuit. Mais essayez, vous allez voir, vous allez vraiment sentir une différence.
Et ne dites pas que vous n'avez pas le temps, comme il a dit, parce que là, il vous l'a dit gentiment, mais au bout d'un moment, vous avez toujours le temps, c'est simplement de planifier-le. Faites-le, ça aura beaucoup plus d'effets bénéfiques que de parler de votre stratégie avec votre collègue pendant 40 minutes sur le score de un tel et un tel et un tel. Un tel, il a fait tel score en partant comme ça. Prenez le temps et en plus de ce qu'il a dit, Tib, prenez également le temps de faire les post-wod. Je vois pas beaucoup de monde des fois souvent le faire. Beaucoup font les pré-wod qui sont super intéressants, mais les post-wod peuvent être également super intéressants et peuvent également vous éduquer sur la façon d'utiliser tout le matériel de récupération, les foam rollers, les boules de lacrosse et autre chose. Donc et ça peut avoir un impact énorme sur votre récupération et sur votre lendemain ou surlendemain. Et ça, c'est des petits détails, mais si vous avez le temps, c'est cool.
Et moi, il y a un truc qui me met bien sur l'app, c'est les rappels. On peut se mettre telle et telle heure, comme ça, on le cale dans sa routine. Moi, j'ai mis tous les matins, à telle heure, je reçois un message de Gaude et puis je fais ma mobilité. Donc, si on veut se discipliner, là, sur les 20 prochains jours et qu'on veut peut-être améliorer son sommeil, c'est de se dire, bon, 18-19 heures, je mange. Par exemple, je me laisse au moins une heure où je chill. Et après, à 20h jusqu'à 21h, je fais un cool down. Et dans ce cas-là, je commence à m'étirer. Et on met le rappel à ce moment-là.
Et moi, un autre tip sur la mobilité qui m'aide énormément, c'est d'avoir en vrai un truc qui me bloquait avant, c'est de ne pas avoir un endroit dédié à ça. Et quand je dis un endroit dédié, c'est un tapis de yoga quelconque ou un tapis Black Roll GoWod, comme vous avez ici derrière moi, pour ceux qui regardent YouTube. Et ouais, je l'ai placé exprès. Mais en vrai, de l'avoir à un endroit fixe chez vous, dédié à la mobilité, je trouve que c'est un truc qui... ça enlève toutes les barrières. C'est comme le gars qui veut commencer à courir, ben, il prépare ses baskets et son t-shirt et tout, il le met à côté de son lit. C'est un truc de moins à penser dans sa journée. Et ben, pour la mobilité, c'est pareil. Et en réalité, il y a zéro excuse à ne pas faire ça parce que ça améliorera votre vie à très long terme en réalité. Je crois que Matt Fraser, il avait une station de mobilité comme ça, non ?
Ouais, Fraser, il avait en fait tout son salon qui était son truc de mobilité parce qu'il voulait passer à environ 2 à 3 heures par jour à faire ça. Et donc, du coup, il n'avait pas envie non plus d'être trop loin de Samy pour pouvoir avoir une discussion au moins avec elle dans la journée. Donc, du coup, en fait, il le faisait dans son salon, mais son salon, c'était. Il y avait en gros des tapis, des foam rollers, des terragun, il y avait tout par
ça,
terre.
Ça, c'est. Tu reconnais un athlète à côté du canapé, tu as toujours un foam roller qui traîne dans la chambre, toujours un foam roller, une boule de lacrosse.
C'est clair.
On est tous les mêmes. Mais c'est vrai que c'est des détails, mais ça peut vous y faire penser. Mettre un petit foam roller devant votre tapis, devant la télé. Un moyen mnémotechnique d'y penser, vous mettre un petit rappel, vous motiver, vous rendre ça plus facile.
Ouais, franchement, après, chacun a son truc. C'est-à-dire qu'il y en a qui aiment bien avoir un challenge, ils veulent faire un nombre d'heures dans le mois. Il y en a qui aiment bien avoir un rappel et c'est tous les jours la même chose. Personnellement, moi, je le fais toujours à la même heure, exactement à la même heure, tous les soirs, sans rappel, parce que c'est à l'heure après laquelle je vais me coucher. Et en fait, c'est mon moment pendant 15-16 minutes, moi, ça me prend. En gros, pendant 16 minutes, je fais ça. Et ensuite, je vais directement aller me coucher. Et donc, en fait, ça me permet de commencer à tomber. C'est un moment où je commence à éteindre la télé, etc. Donc, j'essaie de diminuer un peu et la lumière et le bruit, etc. Et franchement, personnellement, ça m'aide énormément, un, à rester mobile, mais deux, à dormir derrière.
Et ça me fait penser, parce que là, il y a l'annonce de World of Open, c'est le 16 février ? C'est le 16. Oui. À Madrid. Avec un paquet d'athlètes assez connus, dont des athlètes GoWod, je crois. Et c'est un event. Moi, la première chose que j'ai vue quand j'ai vu l'affiche, c'est GoWod. Et est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, cette histoire ? Comment est-ce que vous êtes arrivé à, d'un coup, sponsoriser l'annonce de l'Open et avoir tous ces athlètes GoWod ? C'est quand même une histoire assez cool. Je pense que c'est un podcast entier, mais c'est en rapport avec l'Open.
On fera honnêtement un podcast volontiers sur comment on a travaillé avec tous ces athlètes et la relation qu'on a avec eux. Concernant là l'annonce de l'Open, en fait, on est donc GoWod est partenaire mobilité officielle des CrossFit Games depuis l'année dernière, donc depuis la saison 2022 et donc également pour la saison 2023. Donc ça signifie qu'on est sponsor de l'Open, des quarts de finale, des demi-finales et des CrossFit Games. Et donc dans notre contrat, on avait le droit d'être presenting partner, ça s'appelle comme ça, presenting partner d'un d'une annonce de l'Open. Et ça, ça nous tenait énormément à cœur. C'est quelque chose qu'on a lourdement négocié parce que depuis toujours, on a toujours regardé ces annonces de l'Open là en attendant. En plus, à l'époque, c'était à 2h du matin ou à 3h du matin, mais on restait éveillé pour les voir et pour savoir ce qu'allait être l'entraînement et comment on allait faire et voir les pros le faire. Donc, c'était super cool. Et donc, on voulait vraiment être sponsor de ça. Et donc, là, aujourd'hui, on va l'être. Donc, le 16 février, ça se passe à Madrid, à la Caramarica, qui est là où il y avait l'endroit où il y avait les regionals avant. Et donc, il va y avoir à peu près 1500 personnes qui vont être conviées à ça. 4 athlètes. Gabriela Migala, qui est une athlète GoWOD, qui va être confrontée à Laura Horvat. Et ensuite, chez les hommes, on a BKG, donc Gudmundsson, qui va être en face de Lazar Dukic. Voilà, donc, on va avoir ces athlètes... athlete match-up, duel, entre guillemets, qui vont être trop cool à regarder. Et nous, on va simplement être là pour, un, leur préparer une zone de mobilité parce qu'avant leur workout, ils vont devoir faire du go-ed. Et donc, du coup, on sera là pour ça. Et ensuite, pour juste profiter du show en live, parce que si jamais vous avez jamais vécu une annonce de l'Open, moi, j'ai eu la chance de le faire avec vous tous ici, avec Willy qui était contre Street Horner. C'était en 2019. Et c'était franchement une des meilleures expériences de toute ma vie.
Ouais, nous, cool. on avait eu la chance de voir Street et Willy, et on a eu la chance aussi d'avoir Christine Holt et Sam Briggs en 2017 pour une annonce avec Castro qui était à Paris.
3h du matin. Ouais.
Un truc de fou, le voisin qui est descendu, qui a voulu appeler les flics. C'était magique. Et c'est vrai que les filles, elles étaient super stressées. Quoi. Et pareil,
17.1, elles avaient fait.
C'était 17.1, c'était les dumbbell snatch et box jump. Et Sam Briggs, elle a explosé le WOD et elle l'a même refait après. Tu vois, elle a fait un ridou.
C'est pas de ridou, on a dit.
Les athlètes qui font les annonces se donnent jamais à. Ils sont jamais dans des très très bonnes conditions idéales, quand même, surtout à 2h du matin à Paris, alors que tu as fait.
Oui, ça, par contre, je veux confirmer pour avoir vécu donc, l'annonce avec Willy et avec Street. Ils sont arrivés, il était minuit, ils avaient essayé de dormir, mais ils n'avaient pas bien réussi à dormir, ils avaient mangé il y a longtemps. Ils sont arrivés, il faut savoir qu'ils ne connaissent pas le workout. Hein. Le workout, personne ne le connaît en avance. C'est-à-dire que simplement, 5 minutes avant l'heure officielle, il y a CrossFit qui appelle et qui dit « Voilà, le workout, c'est ça, ça, ça. Il faut tel matos. » Et vous avez 5 minutes pour préparer tout. Vous avez 5 minutes pour les athlètes. Ils leur donnent 5-10 minutes pour s'échauffer. Donc, ils passent de rien à devoir partir pleine balle devant tout le monde. Et donc, en général, à 2h du matin, quand on n'a pas trop dormi, qu'on a faim et qu'on est épuisé, on ne donne pas la meilleure performance de sa vie. Ils n'ont même pas eu le temps de faire de stratégie, ils sont partis vraiment à vide. Quoi. Et
surtout donc, du qu'on coup, était on sur refait... un workout pas du tout stratégique, qui consistait, c'est le premier workout de l'histoire des Open où tu pouvais choisir ta stratégie et l'ordre dans lequel tu voulais commencer les mouvements. Donc c'était
exactement.
Cool.
Donc du coup, Willy, vous l'aviez refait 2 jours après, ce qui était là, dans ce cas-là, totalement logique.
Ah ouais, mais on avait explosé nos scores. On avait fait tous, je crois qu'avec Street chacun, plus d'une minute de mieux sur notre score, simplement en stratégie un peu plus intelligente et en étant moins fatigué. Voilà, c'était compréhensible, comme tu dis.
C'était pas un AMRAP ?
Non, c'était un 4-time.
Ah oui, avec je 30... sais combien de tours. Ouais, le rep.
Ouais. T'avais 40, non, 40, 80, Full 120, ball. Je crois.
Rameur, muscle-up.
C'est ça.
Exactement.
Et pour les Français, on aura la chance, il n'y aura que deux langues réellement dans lesquelles ça sera fait, d'avoir le broadcast des Games et donc de l'annonce sponsorisée par GoWOD des Games pour le premier WOD en français, donc traduit, pas traduit, mais commenté en français par Ellie et Mims, comme d'hab, sur la chaîne de CrossFit France. Ça sera le cas pour les Brésiliens et le Portugais et les Français. Donc on a cette chance. Par rapport aux Italiens et aux Espagnols. Bon, les Espagnols, ils ont quand même l'annonce chez eux, donc je suis un peu jaloux. La prochaine fois, ça sera en France, parce que de toute façon, on aura 10 fois plus d'inscrits que chez eux. Donc voilà, inscrivez-vous pour avoir la fameuse annonce en France l'année prochaine. Les pronostics, qui gagne ce premier WOD à l'annonce ?
Bah, BKG.
Et les femmes ? C'est chaud, les femmes.
Ouais, honnêtement, c'est beaucoup trop dépendant du workout. Enfin, s'il y a un workout qui tombe et qui est exactement dans la veine de Gabi Migala, ça va être Gabi. Si c'est pour Horvat, c'est pour Horvat. C'est tous des super athlètes là. Donc, franchement, je pense Will, mais
assez, en fait, c'est des athlètes, bon, pas similaires. Vous allez dire que je suis mauvais en disant ça, mais je trouve que Laura et Gabi, c'est quand même deux athlètes similaires dans le morphotype, dans la façon de voder, avec leurs points forts, points faibles. Et Bikedji et Lazare, c'est pareil. Donc, tu vois, c'est pas comme si tu avais un Guy Maleros et Bikedji.
Oui.
C'est du coup là, tu aurais pu dire ok, ça dépend vraiment du WOD, mais là ça va être très intéressant et je pense que ça va être cool. Après, moi je mets une petite pièce sur BKG parce que voilà, c'est bon, même si je m'entends bien avec les deux athlètes, simplement parce que voilà, c'est pour récompenser un peu son. C'est un athlète ultra consistant au fil des années qui a fait de multiples fois des podiums et rien que pour ça, bah, il mérite de gagner ce workout.
C'est le Scott Panchik européen,
ouais, ouais,
c'est une sorte de légende,
hein. Ouais. Bah, et puis sinon, je pense que... Allez, Laura, parce que voilà, j'ai plus d'affinité avec Laura, même si je m'entends bien avec Gabi.
Ouais, moi, je pense que Laura, c'est... Peu importe les entraînements, après, en termes de force, etc. Franchement, moi, je mets une pièce sur Laura, peu importe le type d'entraînement. Et
Laura, elle est crocs. Laura, elle est vraiment, vraiment les crocs. Et puis, elle est... Même si Gabi est très bien entourée, pour avoir un peu discuté avec elle à Miami, là, elle a revu pas mal de choses avec Ben Smith. Elle a remis des choses pas mal à plat. Je pense que ça l'a boosté un peu le fait que Tia se mette un peu de côté. Ouais. Et donc, Laura. Mais après, Gabi, c'est aussi ce qu'ils appellent un peu un underdog, là. Donc, elle est quand même... Oui. Elle en veut. Elle a les crocs. Elle est... Franchement, ça va être tendu. Ça va être cool.
Moi, c'est plutôt un road cardio. Aussi.
Je pense que c'est BKG, parce que lui, il a un mental de fou. Et puis, comme tu dis, c'est un vrai crossfitter pur et dur. La pure méthodologie sur les wods de l'Open, il est trop fort. Et Migala, parce que l'année dernière, elle a fait 5e à l'Open. Et sur les premiers wods de l'Open, c'est toujours un wod moteur où la méthodologie, elle est vraiment mise en avant. Et
on n'aime pas le premier wod.
Ouais, c'est un wod
assez abordable. Il fait mal.
Et par exemple, Migala, l'année dernière, elle a fait 2e au premier wod. Worldwide hein, ou européen, j'ai plus. Mais en tout cas, elle a fait une bonne perf.
Je pense qu'ils vont tous le démonter le workout. Mais c'est des athlètes qui ont pas de trous hein, pour remettre les choses dans leur contexte. Là, on parle pas d'athlètes qui ont des trous. Les quatre athlètes, c'est quatre athlètes complets et de ce que je sais, là, ils ont pas de trous. Donc
peut-être à part.
Oui, elle a bossé pas mal. Hein. L'an dernier, elle a quand même prouvé que. Elle a prouvé qu'elle a vachement travaillé ça et qu'elle est revenue au niveau d'une compétitrice moyenne sur ses mouvements. Ouais. Mais c'est sûr qu'elle n'est pas au niveau des top. Et puis voilà. Bon, après, ouais, Lazare, peut-être trou, pas de Usafel. Et...
Peut-être pas des marches.
Ouais,
non, je rigole. Pas c'était pour le taquiner, le pauvre. Mais... Non, Lazare, c'est aussi un athlète très complet. Et je pense que ça va être intéressant.
Qui s'entraîne en France maintenant.
Également.
Pour ceux qui ne savent pas. Dans l'Est. Vers un coin qui s'appelle Strasbourg.
À 30 minutes de ma salle, Wiz CrossFit.
Ouais. Ah. De temps en temps, ils essayent de se jeter des kettlebells dessus à distance.
De temps en temps, il me dit « Ouais, je veux venir m'entraîner avec toi. » Et je me dis « Cool, bah vas-y, on va s'entraîner ensemble. » Mais il ne veut pas trop faire de workout. Et c'est surtout pour utiliser… On a un peu de matos type games à Wiz, donc on est pas mal équipé pour ça. Et donc, il veut venir un peu l'utiliser. Mais bon, j'aurais bien aimé, moi, des fois, me challenger. Je reste un compétiteur.
Je viendrai, Will, t'inquiète pas, je viens bientôt.
Ouais, j'adore, j'attends.
Tu peux lui demander. Hein.
Chaud. Et en parlant d'athlètes qui gagnent, c'est quoi votre pronostic pour ce premier WOD prédiction de WOD.
Prédiction, voilà. Allez, vas-y, je me lance, moi, j'y vais direct.
Vas-y, go.
Wall walk, toast to bar, squat clean.
Ouverture de hanche, fermeture de hanche, gainage, c'est un salopard.
Un bon truc qui te pique bien.
Will.
Franchement, si je dis une prédiction, ça va me mettre mal parce que je sais que ça va être sale. Mais je verrais bien toast to bar. Franchement, je le vois bien tomber. Et je vais plutôt que faire une prédiction du premier workout sur les mouvements qu'on peut voir apparaître. Je ne sais pas pourquoi, au vu de CrossFit.com, au vu des derniers mois, j'ai noté à chaque fois que je voyais un mouvement qui n'était pas très convenable, mais qui est très accessible pour l'Open, le dumbbell burpees. Vous savez, c'est comme un devil press, sauf que tu ne fais pas devil press, tu te relèves, tu fais simplement un deadlift. Je me dis pourquoi pas dans ces open en nouveau mouvement et pourquoi pas au quart, je dirais les wall facing strict HSPU pour la première fois au quart. C'est quelque chose qui peut tomber.
C'est sûr.
Ouais. Donc voilà, ce serait un peu mes et le devil press, je le vois bien faire ça en son apparition. Donc, mais sinon, en wod open, je ne me lance pas parce que. Franchement, s'il y a trop de possibilités, mais c'est vrai que je rejoins un peu ton avis, Chip, sur un AMRAP avec des toast to bar, Pourquoi pas des DU et des wall walk, quelque chose comme ça. Ils aiment bien. Là. Je pense que les wall walk, on va se les taper pas mal de fois là, ouais, pour les ans, années, ouais, à venir.
Moi, j'irais peut-être sur un couplet avec wall ball rameur. Peut-être
Ouais, allez, on arrête le podcast. Sur ces conneries, on arrête le podcast. Allez, ouais, on arrête. Ça commence à dire des conneries. Là.
Non, mais il faut respecter les
19.5.
Il faut respecter les petits.
C'était intéressant, le 19.5, c'était, je ne sais plus ce que c'était, c'était Wall Ball Rammer.
19.
Amrap, 15 minutes.
Ouais, pourquoi pas un truc comme ça, en fait, un basique de condi pur, quoi.
Et puis le truc, non mais là, tu vois, rien que je viens de penser à un truc, là, le truc chiant, les open, quand tu te filmes, c'est toute leur mise en place. Alors c'est génial, c'est obligatoire, mais alors par contre, il te faut 28 gigas parce que tu as déjà 22 gigas sur ces 28 qui sont sur la présentation du matériel. Les scotch au sol, ça coûte une blinde au box en scotch. Franchement, c'est là, rien que d'y penser, je me dis, on s'est dit ça tout à l'heure avec lui, on s'est dit, putain, tu sais qu'on va devoir acheter plein de scotch et faire toutes les zones avec toutes leurs nouvelles lignes qu'ils veulent faire. Et ça, c'est. Mais bon, c'est bien, dans le sens où pour les compétiteurs qui veulent se filmer et accéder à la suite, c'est super important.
Ouais, d'ailleurs, si vous êtes compétiteur sérieux, lisez attentivement le rulebook. Il y a plein de choses là-dedans. Pour les équipes, la même chose, lisez le rulebook.
Ah ouais,
et, prenez le temps. Une insulte, hein.
Parce que l'an dernier, là, toutes celles qu'on fait, celles et ceux, là, j'ai vu pas faire des shuttle runs. Il y avait un nombre, il y avait bien marqué que c'était un aller-retour. Et ensuite, après, au quart de finale, tu vois que les gens, ils avaient fait qu'un seul aller. Je suis désolé, ta responsabilité d'athlète, si tu fais un workout, tu lis la scorecard avec la description de tous les mouvements, les standards des mouvements sur cette feuille. C'est obligatoire. Moi, à la boxe, je l'ai fait chier avec ça, mais c'est obligatoire que tu veuilles faire une perf ou pas. Ça fait partie du workout. Donc, tu n'as pas
le
choix.
Ils auraient dû faire leur rulebook un peu plus saucisse-proof. Ils auraient dû marquer bien, bien propre, genre égal à un aller-retour en rouge. En gros, comme ça.
Franchement, CrossFit, ils ont bien fait de le mettre comme ça parce qu'au bout d'un moment, ça montre vraiment les athlètes qui sont professionnels dans leur approche des workouts. Là, tu es en quart de finale, tu as une place en demi qui joue, tu as des athlètes professionnels qui jouent leur saison à ce moment de la saison. Donc, c'est important de prendre les choses et de lire concrètement les mouvements, les standards. Et si tu n'es pas capable de lire les standards, bah, tu n'es pas capable de faire le WOD.
Julien, on ne connaît pas les positions,
il est tard, mais là, je suis clash.
En vrai, ouais, ma prédiction, moi, je réfléchis depuis tout à l'heure. Je pense que je verrais bien une barre d'haltéro légère, un truc où tu ne peux pas t'arrêter en power snatch, du rameur et des toast to bar.
Intéressant, ça.
Oh, ça, j'aime bien.
Ça a bien piqué le grip un peu.
Un triplet où on travaille un peu le grip, mais c'est une charge légère. Ça me fait penser au WOD où c'était toast to bar, hang clean and jerk et rameur à l'époque, qui était cool. Et c'était un vrai test du moteur avec un faible.
Non, mais c'était une dumbbell.
Ouais, c'était une dumbbell.
Et c'était la première fois que c'était pas alterné les mouvements. Il fallait changer de bras toutes les 5 ou 4 reps.
Ouais,
toutes tes 4 reps.
Vraiment un test de moteur où on veut voir si tu es capable de garder une intensité constante entre 12 et 15 minutes.
Allez.
Ouais, ça peut être aussi un snatch burpees.
Ça peut être
Non, trop de fois, il est tombé deux fois. Dumbbell snatch, burpee, box jump.
Mais le 20 points.
Laissez-nous. C'était quoi le 20 points?
Ah oui. C'était snatch, burpees over.
Facing. Oh, il n'y avait pas un deuxième avec les barres muscle up après? Il n'y avait pas les barres muscle up et je ne sais plus quoi après les lunges.
C'était la deuxième, ouais.
Il y avait deux WOD dans un moment.
Bon, voilà. Voilà. Ça va
bon, en tout cas, ce qu'on va faire, que tout le monde sera sûr, mais ce qu'on va faire, c'est que l'annonce de l'Open, c'est annoncé jeudi soir. Mims sera là en live pour commenter tout ça. Et ensuite, le lendemain, on va s'appeler le plus vite possible tous les quatre. On fera un podcast pour vous débriefer. Comme ça, vous aurez les conseils de Will. Vous aurez vous aurez sa vision du workout, comment le faire avec les différents niveaux. Et en fonction de chaque niveau, on donnera des stratégies. Voilà, et on vous donnera également pour le premier workout ce qui s'est passé en live, puisque je serai sur place. Donc on vous donnera tout ce qui s'est passé en live, les coulisses, les petites anecdotes qui se sont passées. Voilà, donc
partez à bloc, ralentissez pas. Prêt.
Faut absolument, type, que si on commente, on te fasse commenter en live, que tu te branches avec l'hôtel et que tu viennes. Faut qu'on arrive à faire ça.
Ouais.
Ou alors on ira commenter direct à Madrid si on arrive à trouver une fibre optique. Et moi, ce que je veux, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est les échauffements avant les... C'est vraiment le moment de l'année où je m'échauffe n'importe comment. Déjà, je m'échauffe jamais. Et quand il y a le WOD de l'Open, je m'échauffe pendant une heure et je fais n'importe quoi. Je fais tous les mouvements du WOD 50 millions de fois, juste parce que je suis stressé. Alors, il faut qu'on parle de ça pendant les podcasts post-Open. Et ouais, et autre conseil, regardez crossfit.com pour avoir une idée de comment vous préparer pré-Open. On n'en a pas du tout parlé, et... c'est une très bonne remarque.
Pour rebondir sur ce que tu dis, Julien, et ce sera le dernier rebondir de ce podcast, on va faire des vidéos avec Wyss concernant ça, bah, les échauffements à faire que je conseillerais pour les Open. Bon, elle risque de sortir, suivant la vitesse de flow, à sortir ses vidéos. J'ai mis un coup de passion.
La nuit, elle sortira la nuit, elle sera prête à 4h du matin.
Non, on fera ça. Elle sortira sûrement le vendredi soir, en fin de journée, sur mes conseils. Vous verrez peut-être une partie de mon workout ou la totalité, si je m'en fous complètement. Et je vous donnerai également un peu des astuces sur comment vous échauffer, parce que c'est vrai qu'on voit un peu tout et n'importe quoi. Et souvent, les athlètes faire en volume de rep peut-être les 3/4 du WOD en échauffement.
C'est moi, ça.
Ça, c'est cool. Je regarderai.
Je m'entraîne plus le jour de l'Open que sur les 6 mois avant. Voilà. Je pense qu'on a tout dit et il y a plein de trucs là-dedans. Pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, pour le sommeil, nous, on essaie de vous préparer un petit truc dans le futur qu'on va tester ce soir. On n'en dit pas plus. Et likez ce podcast, mettez des commentaires. Si vous avez des questions auxquelles on peut répondre sur, peut-être sur les stories Instagram ou peut-être dans les prochains podcasts, commentez, likez, partagez. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple. Apparemment, ça aide beaucoup, ça. Mais merci beaucoup. Vous êtes très
suivez-nous sur Instagram. Vous êtes beaucoup à voir ou écouter les podcasts, mais personne nous suit sur Instagram, en tout cas pas grand monde. Suivez-nous parce qu'ensuite ça nous permet, comme il a dit Julien, d'interagir avec vous sur des sujets, savoir qu'est-ce qui vous intéresse, et ça nous permet de faire des podcasts en corrélation avec ça. Donc c'est super important et ça nous motive à nous rassembler un maximum de fois. Hein. Faut être.
Ouais, c'est juste que lui, il a plus de 100 000 followers. Alors il pense que 600 c'est pas beaucoup, mais moi à mon niveau, je trouve ça génial.
Non, mais je parle surtout pour les questions-réponses, parce que aussi quand on fait des questions-réponses sur Instagram, on attend vraiment de tester un nombre de personnes assez grand. Et c'est vrai que quand on voit les écoutes et le nombre de personnes qui nous suivent sur Instagram, bah il est pas. Donc si vous nous écoutez, suivez-nous.
Et ça sera le mot de la fin. On vous souhaite bon courage pour l'Open. Je sais pas dans combien de temps on se retrouve, si c'est à l'Open ou avant, on verra. Mais on fera comme Tibi vous dit, des épisodes à chaque Open. Et dormez bien, essayez de manger un petit peu mieux et prenez soin de vous. Merci beaucoup.
Ciao, ciao.
Salut tout le monde, merci de nous avoir écoutés.